This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hello les légendes, bienvenue pour ce 94e épisode qui signe le retour d'un Belge sur le podcast. Non seulement j'adore les Belges, et aujourd'hui on n'a pas n'importe lequel au micro, l'ex numéro 1 de son pays, Fly, alias Christophe Vliegen. Cette interview a été enregistrée lors du premier confinement, mais rassurez-vous, Fly est toujours retraité, donc sa carrière de joueur n'a pas vraiment évolué. On revient ensemble sur ses débuts, à savoir ce qui l'a précisément fait accrocher à ce sport qu'est le tennis, la mise en place tardive de son jeu, ce qui lui a joué des tours, Fly était à deux doigts de louper le train comme il le dit. Notre invité nous explique les spécificités des deux fédés belges à l'époque des Kleisters et autres Xavier Malis. Vous allez vous délecter du passage de la soirée des champions suite au titre junior en double à Wim de Christophe. On enchaîne avec la manière dont Fly est passé et s'est considéré joueur de tennis professionnel. Il nous raconte à merveille son plus gros pétage de câble, ses victoires marquantes sur Nadal mondial, 8e mondial à l'époque, Coria, ex-finaliste de Roland, ou Richard sur le central, plein à craquer, toujours à Roland. On aborde aussi le sujet épineux du dopage lorsqu'il a joué Puerta, qui s'est fait prendre peu de temps après. Puis le moment venu de la retraite, bien trop tôt à son goût évidemment, avant de terminer par les traditionnelles questions de fin. Fly en parle, l'aspect mental tenait une place considérable dans son jeu, il regrette de ne pas avoir eu des clés de compréhension plus tôt. La bonne nouvelle, c'est que le préparateur Jean-Philippe Vaillant, passé sur le podcast, nous en a confié 14 quand même, et c'est en accès libre dans le premier lien en description de l'épisode. Et avant de laisser place à l'entretien, mettez un like dès maintenant à la vidéo si vous êtes sur YouTube, ou 5 étoiles sur les plateformes audio, ça nous aide comme jamais à faire connaître le travail. Place maintenant à l'interview avec l'excellent Christophe Vliegen. Bonne découverte et bonne écoute à tous.
Alors Christophe est né le 22 juin 82 à Marseille, en région flamande, en Belgique donc. Tu mesures 1,93 pour 73 kilos à l'époque de ta fiche ATP.
Ça se voit. J'ai pris du poids.
T'as un grand frère et t'es surnommé Fly. T'as commencé le tennis dans le même club que Kim Kleisters. Vous étiez d'ailleurs dans le même programme d'entraînement, dans la même école. Et vous avez grandi à proximité l'un de l'autre.
Ouais.
À 11 ans, t'es parti au centre d'entraînement de la Fédé à Anvers. Tout en continuant tes études pendant 8 ans, tu as été joueur de tennis professionnel de 2001 à 2011. En 3 ans, tu casses la barrière du top 100 en battant ton premier top 10, Nalbandian, numéro 8 à Barcelone.
Ouais.
En 2005, tu confirmes et termines l'année dans les 100. Tu fais quart à balle en sortant Coria, numéro 7 mondial. Tu te qualifies à Roland en battant Anthony Dupuis au premier tour. Puis tu perds contre le futur vainqueur, Mariano Puerta. Hélas, pris pour dopage 3 semaines après. 30e joueur mondial à ton meilleur en 2006. Tu passes numéro 1 belge, atteint le 3e tour à l'Open d'Australie. Tu fais quart à San José, demi à Memphis en battant James Blake. Première finale à Munich, perdu contre ton compatriote Olivier Rocus et finis la saison avec un prize money de 477 925 $. Belle année. Tu continues sur ta lancée en 2007, troisième tour à Monte-Carlo avec des victoires sur Polo et Safin avant de croiser Rafa. Pareil à Roland, en battant notre Richard National, tête de série 13. J'étais dans les granins du central, tu l'avais découpé, c'est pas cool. Cagnas a arrêté ta route au tour suivant. 2008, quatrième année dans les 100 meilleurs. T'as un coup de mou sur le début de saison, retour dans le Challenger et gagne 3 tournois sur 4 à Genève, Düsseldorf et Grenoble. Tu considères ton service comme meilleur coup et apprécies la variation dans le jeu. Ta surface préférée est le dur. T'admirais Becker étant jeune, même si tu dis qu'en Belgique, vous n'avez pas d'idole. T'as joué 20 matchs de Coupe Davis en battant au passage Hewitt et Gutschen en 5-7 au match décisif chez eux en Australie pour qualifier la Belgique sur le fil en quart en 2007. Puis en 2009, c'est déjà la fin. Tu chopes un virus qui t'éloigne 9 mois du circuit. Enchaîne les blessures, redescend au classement pendant 2 ans et annonce ta retraite sportive à 29 ans. Tu parles 3 langues, l'anglais, le français et le flamand. Tu avais pour habitude d'emmener ta PlayStation 2 à la belle époque, en déplacement sur les tournois, en conférence de presse pour annoncer ta retraite. Ta retraite, tu as terminé en disant « Ce que j'ai toujours trouvé dommage durant ma carrière, c'est que pendant 72 heures, t'es un dieu, et le lundi d'après, t'es une merde. » 3 mois après, t'inaugurais ton académie à Bruxelles, pas de temps à perdre. Est-ce qu'on doit ajouter quelque chose d'important dans ta présentation, Christophe ? Est-ce que j'ai oublié quelque chose ?
Non. Depuis que j'ai lancé l'académie à Bruxelles, il y a beaucoup de choses qui ont changé, dans le sens que, au même temps, j'avais ouvert un restaurant.
D'accord.
Avec une boîte de nuit, donc que j'ai gardé pendant 4 ans.
Ouais.
Je l'ai vendu en septembre 2016. Attends, de 2012 à 2016, ouais, c'est ça. Je l'ai vendu en octobre 2016. Et pour raison, en fait, parce que j'ai entraîné pendant 4 ans un jeune Hollandais qui est maintenant deuxième Hollandais.
D'accord.
À ce moment-là, il s'appelle Griekspoort, Talon Griekspoort. J'ai commencé avec lui quand il avait 17-18 ans. Il était junior, il ne jouait pas incroyable. Il n'était pas très bon junior aux Pays-Bas, mais j'ai joué les interclubs avec lui. J'étais dans la même équipe et les parents m'ont demandé si je voulais m'occuper un peu de lui pour voir. Et je leur ai dit après 2-3 semaines, je leur ai dit, mais je ne comprends pas que les Fédé ne travaillent pas avec lui parce que je pense qu'il va vraiment être bon.
Ouais.
Et les parents m'ont dit, bah non, ils sont 3 dans la famille, ils sont 3 frères. Il y avait 2 frères plus âgés, donc ils sont bien plus forts. J'ai dit, non, à terme, vous allez voir que ça ne va pas être le cas. J'ai dit, c'est peut-être aujourd'hui, mais donc j'ai dit aux parents, à ce moment-là, il y avait 10 futurs en Belgique. Et ouais, j'ai dit, je veux bien m'occuper des 3. Pendant les 10 semaines, et on va voir, on va arriver.
Ouais.
Et les parents m'ont dit, ok, pas trop, je vous fais confiance. Et un des plus grands, c'est Scott, lui, en fait, ça faisait 5 ans qu'il faisait des futurs, il gagnait 3 points par an, c'était galère, il faisait 20 tournois par an, 20 fois qualif de futurs, il se qualifiait 3 fois par an, donc c'était un truc ridicule.
Ouais.
Et après les 10 semaines, il était 500 en une fois, il avait fait demi avec quart, il fait finale. Et le jeune, en fait, lui, il rentrait pas dans les qualifs avec son classement, parce qu'il y avait un classement de merde, hein, il y avait pas, il y avait juste un numéro national qui n'était pas bon. Et donc lui, en fait, pendant les 10 semaines, il a joué 2 tournois. Et pendant les 8 semaines, il est à côté de moi pendant tous les matchs de ses frères. Et je lui ai parlé tout le temps. On parlait des matchs de tennis, comment il voyait les choses. Et ouais, à un moment donné, il a commencé à rentrer dans les futurs, tout ça. Aujourd'hui, il est son meilleur classement, il est, je crois, que 160. Il a battu Wawrinka et Khachanov à Rotterdam, là.
Énorme.
Il est très bon. Et bon, là, ça s'est terminé avec lui l'année passée, au mois de mai, parce qu'après 5 ans de travail avec lui, le courant ne passait plus trop. On est resté des très bons potes, on s'appelle souvent. Donc, c'est la raison pourquoi j'ai vendu mon restaurant, en fait. Que pour lui, j'ai vendu le truc, j'ai laissé tomber pour faire le chemin. Donc, avec lui, c'est vraiment un chouette parcours que j'ai pu faire comme entraîneur, parce qu'il était débutant dans les futurs, dans les qualifs. Et ouais, finalement, on s'est retrouvé à Rotterdam, dans les grands chelems. Bon, c'est les qualifs, hein, mais au plus haut niveau, donc c'était vraiment sympa. J'ai passé les caps, on va dire, en étant entraîneur, gagner des futurs, gagner des challengers, et puis arriver en ATP, puis faire des qualifs d'ATP, puis grand chelem. Donc c'était vraiment sympa. C'est un chouette parcours que j'ai fait avec lui.
Ouais, belle histoire. Ça, belle histoire. Ouais. Et tu voulais pas mettre ton resto et ta boîte de nuit en gérance? Tu voulais t'investir à 3000%, soit faire l'un ou l'autre, mais pas les deux?
Le problème, c'est que pendant les 4 ans que j'ai eu le restaurant à la boîte de nuit, tu vis la nuit.
Ouais.
J'y étais tout le temps, je servais moi. Donc j'étais derrière le bar, je faisais la comptabilité, je faisais tout. Donc c'était complètement autre chose de tennis, parce que bon, j'avoue, quand j'ai dû arrêter le tennis, je n'étais quand même pas très bien dans ma tête. Et c'est à ce moment-là une connaissance qui m'a téléphoné, il me dit, Chris, ça va? Je dis, écoute, franchement, ça va pas trop, non? Je sais pas très bien quoi faire, là, parce que je m'y attendais pas du tout à m'arrêter. Et lui m'a dit, viens, j'ai un truc pour toi peut-être, on va s'amuser. Et j'étais voir l'endroit, et à la base, c'était juste pour faire un restaurant. Puis je dis, ouais, un restaurant, c'est sympa, le midi soir, allez, je dois pas faire grand-chose. Et puis, en fait, en regardant les salles là-bas, le gars me dit, écoute, j'ai l'impression qu'il y a l'installation pour faire la sono et tout. Je dis, je m'en fous de la sono. Et puis finalement, 24 heures, en plus, ça s'est fait en 24 heures, c'est ça qui est dingue. 24 heures après, j'ai dit, ok, c'est bon, on le fait. J'ai reçu les clés le 30 août du truc et j'ai ouvert le 14 septembre. mais j'avais pas une assiette, j'avais pas un cuistot, j'avais rien, j'avais pas d'alcool, j'avais pas de verre, j'avais rien.
Ouais.
Donc en 14 jours, on a essayé de faire notre mieux. Et depuis ce jour-là, bah, ça a bien fonctionné pendant 4 ans. Je veux dire, ça a toujours bien fonctionné. Bon, la première année, c'était vraiment un peu l'effet de mode, que les gens venaient parce que voilà, j'y étais. Puis c'était dans un bon endroit où le moyen âge qu'on acceptait, c'était 30-35 ans. Donc les jeunes de 20 ans, on ne les faisait pas rentrer.
OK.
Et donc, bah, les 30-35 ans, un, déjà, eux, ils consomment le plus. Et ouais. Normalement, il n'y a pas de bagarre ni rien. Et bon, il y a toujours des trucs, hein, mais... Et donc, c'était vraiment cette ambiance parce qu'on va dire les adultes, ils se retrouvaient en adultes. Et bah, les jeunes de 20 ans, ils voulaient tout le temps y rentrer. Donc, tu avais toujours une file devant, mais ils savaient que ça n'allait pas. Donc, c'était autre chose. Et bon, ça m'a permis d'oublier un peu, on va dire, pas ma carrière, mais la douleur que ça m'a fait d'avoir arrêté.
Ouais.
Et bah, finalement, je suis retombé dans le tennis parce que voilà, j'ai resté un peu dedans. Et bah, après, c'est les Hollandais, on va dire, qui m'ont remis un peu dans tout le truc.
C'était où ton bar et ta boîte ?
À Lannes, c'est près de Waterloo.
C'est là où tu t'es fait tes tatouages parce que c'est le monde de la nuit qui t'a inspiré.
Non, ce sont mes deux enfants qui sont sur mes bras.
D'accord, excellent. Non,
j'ai fait tatouer mes deux enfants. Sur le bras avec le nom, la date de naissance, l'heure de naissance, une petite phrase à gauche, à droite.
Et bon, je t'avais croisé.
J'avais déjà des tatouages à l'époque quand je jouais, mais je n'avais pas sur le bras, je les avais sous le dos. Ah, je les ai toujours dans le dos, hein, mais j'ai des ailes dans le dos de haut en bas. Donc j'ai toujours aimé les tatouages. Et puis c'est vrai que quand mon premier fils est né, je pense que 2 semaines après, je l'avais. Et bon, vu que le deuxième est arrivé, je voulais faire les deux. Donc voilà.
Je t'avais croisé quand j'avais, en 2007, je crois, je devais avoir 17 ans. Ma copine de l'époque m'avait invité à Bruxelles pour le concert de David Guetta à Tour et Taxi.
Ouais, j'y étais, ouais.
Et je t'avais croisé, tu avais un garde du corps, je me souviens.
Bah, en fait, je pense que toi, tu parles du garde du corps qui faisait 2 mètres et des.
Ah bah oui, c'était une marmule, ouais.
Ah non, mais c'est pas un garde du corps, c'est lui qui organisait la soirée.
Ah d'accord.
Et il s'appelle Peter Loridon, et je vais t'expliquer qui c'est un joueur de basket en Belgique. Ouais. Et en fait, il a pas joué en NBA, mais c'était un des meilleurs de Belgique à ce moment-là. Ouais. Et il travaillait pour Red Bull, et Red Bull était sponsor de la soirée. Et moi, j'étais invité par Red Bull, bon, je connaissais lui aussi. C'était pas mon garde du cœur, mais c'est vrai que j'ai passé la soirée avec lui ou la nuit, ouais, c'est vrai. non, c'est pas du tout mon garde du cœur. Non, j'ai jamais eu besoin de garde du cœur en Belgique, t'inquiète.
Ah oui, je m'étais dit, putain, Ligan, c'est une star ici, c'est incroyable, le mec a un garde du corps.
Ça, c'est bon, ça. Putain, j'aurais dû dire que c'était vrai, quoi. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, donc. C'est Peter Loridon, tu vas voir sur Instagram Peter Loridon, mais non, il est dans tout ce qui est boisson énergétique, tout ce qui est bien-être dans la vie. Il a fait plein de trucs. Il a joué, en Belgique, il y a toujours, chaque année, il y a un match de basket. On va dire les légendes belges contre les Américains, je ne sais pas très bien à quoi. Et il les connaît tous, donc c'est pour ça qu'il a été très, très bon au niveau basket. Et d'accord. À ce moment-là, il était tellement connu qu'il travaillait pour Red Bull, et voilà. C'est par lui que j'ai eu des entrées, en fait.
D'accord. Bon, alors, pour parler tennis un peu, est-ce que tu peux nous rappeler comment tu as découvert ce sport et pourquoi tu as accroché particulièrement avec le tennis?
Comment j'ai accroché, c'est que j'étais en classe maternelle et il y avait une raquette qui traînait, on va dire. Et je l'ai prise en main. Apparemment, je jouais tout le temps contre le mur tout seul. Et la prof à l'époque, bon, mes parents s'entendaient bien avec elle. À un moment donné, ils ont proposé de me prendre avec le mercredi après-midi après l'école. Donc, je rentrais avec la prof chez elle à la maison. On allait jouer une heure au tennis.
OK.
Et c'est comme ça que j'étais dedans. Puis j'étais, bon, après déjà, son mari, il était prof en troisième primaire. Et avec lui aussi, j'allais jouer les mercredis. Donc à ce moment-là, en fait, c'est à l'école que j'ai découvert ça. Bon, une fois que j'étais mordu de ça, je regardais à la télé tout le temps. Mais sinon, j'ai toujours aimé le sport, donc j'ai joué au foot aussi. Mais à un moment donné, j'ai dû faire le choix entre le tennis et le foot. Et pourquoi j'ai choisi le tennis à ce moment-là? Je crois que je voulais surtout assumer une victoire ou assumer la défaite moi-même. Je comptais pas trop J'avais du mal avec les autres. On va dire que si je perdais moins un match de tennis, bah, je savais que j'avais perdu moins. Si je perdais un match de foot, c'était peut-être à cause des autres. Et pas forcément seulement à moi. Tu vois, donc j'avais du mal avec ça.
Ah, tu étais responsable déjà. Et à quel moment tu as rencontré Kleister? C'était en maternelle déjà ou c'était après?
Non, c'était, bah, on avait, on va dire, attends, c'était quel âge? Bah, c'était 8-9 ans, je crois, un truc comme ça.
Ok.
T'as et puis, bon, on était à Anvers à l'école ensemble. On n'était pas chez nous, on va dire, à Mazé, qu'on n'était pas à l'école. Mais le club de tennis où on s'entraînait, où on a commencé, c'était avec elle, on ne savait pas. Hein, je veux dire, elle était là, on jouait ensemble, mais bon, on ne savait pas du tout. Moi, je ne savais pas qu'elle allait gagner autant de Grand Chelem et tout ça.
Ouais. T'as tout de suite fait partie des meilleurs ou ta progression a été lente? À quel rythme t'as évolué?
C'était assez rapide, je crois, parce que quand je faisais des petits tournois dans le coin, Wim Fissette, bah, vous voyez qui c'est? C'était l'entraîneur des Kleisters, maintenant des Kerber et tout ça. Et d'accord. Maintenant, il est avec Osaka. Et ouais. Lui, en fait, il jouait bien au tennis et son papa, en fait, est venu parler à mes parents en disant qu'il fallait que je m'entraîne à la fédération parce que je jouais bien au tennis. Mes parents ne connaissaient rien. Et le papa, en fait, nous a mis en contact ou a mis l'entraîneur de la fédération en contact avec mes parents. Et c'est comme ça que ça a été, entre guillemets, vite fait. Parce que mes parents ont refusé la première fois qu'on a reçu la lettre d'invitation pour aller à la fédération. Mes parents ont refusé parce que j'étais trop jeune. J'avais 10 ans, aller dans un internat de lundi à vendredi soir. C'était quand même dur. Et bon, l'année d'après, ils ont plus su me tenir parce que moi, je voulais tellement jouer au tennis que je voulais y aller, moi. Donc, là, à la fin, mes parents, bon, ils m'ont donné l'occasion, mais bon, ils avaient mal au cœur quand même. Donc
tu es parti à 11 ans de chez toi?
Ouais, à 11 ans, ouais. Donc, ça partait, je faisais quoi en fait? Je faisais du lundi matin, je partais vers 6h30 du matin et je revenais le vendredi soir.
C'est dur particulièrement ou comment tu le vivais?
Bah, les lundis matins, c'était dur parce que bon, il fallait quand même partir chez ses parents, quoi. Donc ça c'était dur, mais bon, une heure après, c'était oublié que bon, dès que je voyais la raquette de tennis, la balle de tennis, c'était bon, quoi. C'était facile, ouais. C'était facile entre guillemets pour m'acheter, c'était très facile pour me faire changer les idées. Il fallait me donner une balle de tennis et j'étais content. Donc,
t'as gagné les championnats jeunes un peu ou tu te situais?
Ouais, c'était en 94, donc ça c'est. Moins de 12, j'étais champion de Belgique. Mais après, je dois dire, 14 et 16 ans, j'ai eu du mal. Parce que j'ai grandi assez tard. Et Stéphane Wauters, c'était de mon âge. Ouais. Il a terminé 200e. Il a fait une belle carrière quand même, moi, je trouve. Lui, par exemple, lui, c'est de mon âge. Et physiquement, il était bien plus fort que moi. Et je me faisais souvent battre. Je ne dis pas que sur physique, mais aussi, j'étais... À jeune âge, j'étais trop jouette, je faisais plein d'amortis, je faisais de l'off, je faisais un petit show, un truc et là. Et lui, il était déjà discipliné. Donc lui, en fait, entre guillemets, par rapport à moi, c'est une petite machine déjà qui se mettait en route. Et moi, bah, par exemple, si mes amortis n'allaient pas, bah, j'avais un fameux problème parce que je n'avais pas de plan B. Tu vois, bon, tout le monde savait à un moment donné. Donc j'étais un peu trop jouette encore. Et bon, ouais. Je n'étais pas très grand, donc je devais faire plein de balles en l'air, des amortis, monter contre-temps, donc... Mais bon, quand tu as 14 ou 16 ans, pour venir déposer une volée sur un grand terrain, ce n'est pas évident. Et bon, je crois qu'à 16-17 ans, j'ai commencé vraiment à grandir et j'ai pu installer un jeu qu'après que j'ai installé pour toute ma vie, on va dire. J'ai commencé à bien servir. J'utilisais beaucoup plus mon coup droit qu'avant que je ne bougeais pas parce que je faisais juste un peu le fainéant. Donc, j'ai installé mon jeu à partir de 17-18-19 ans. Tu vois, c'est là que ça s'est vraiment construit. Avant ça, je m'amusais sur un terrain de tennis qui m'a permis de bien jouer, hein, parce que voilà, mais j'étais pas à jeune âge, je me suis jamais rendu compte ce qu'il fallait faire pour devenir ouais. professionnel. Je me suis rendu compte qu'à 17, 18, 19 ans, je me dis oh là ici, il faut que je m'y mette parce que j'ai l'impression que je peux rater le train ici.
En Belgique, il y a deux fédés, hein, la flamande et la wallonne.
Ouais.
Toi, tu faisais partie de la flamande du coup.
Ouais.
Je crois qu'elle est réputée pour être une école un peu plus hargneuse et bagarreur, non? Ou c'est l'inverse?
À l'époque, on va dire, quand moi j'y étais, bon, je donne un exemple. Il y avait Kim Kleisters, il y avait moi, Xavier Malisse, on était là. Bon, on va essayer de dire d'autres noms qui sont peut-être un peu, sont devenus connus. Laurence Courtois, elle était dans les 20 meilleurs à mon année. Bon, moi, j'étais jeune, elle était déjà bien lancée. À jeune âge, on peut quand même pas dire qu'on était tous des bagarreurs.
Ah oui, toi, tu étais plus la variété, l'amorti, ouais, donc tu étais un peu l'excès.
Fantaisiste, un peu fantaisiste parfois. Bon, à la fin de ma carrière, ça allait mieux, hein, mais au début de ma carrière, à jeune âge, j'étais fantaisiste. Mali, c'est la même chose. Donc, je ne sais pas si la Fédé est plus… ils ont essayé d'installer, on va dire, ça, mais ceux qui ont fait carrière, ils ne faisaient pas partie de ce groupe-là. Mali n'a jamais été un bagarreur comme ça. Il a fait une magnifique carrière, mais on sait comment il était. Je sais comment moi j'y étais. Bon, Kim a été numéro une mondiale, mais on a tous quitté la Fédé aussi à un moment donné.
Ouais.
Mali est parti à 16 ans, bon, aux États-Unis. Chez Bolletieri, quand tu reçois une proposition pareille, c'est compliqué de refuser, je crois. Bon, Clayster, je crois qu'à 16 ans, elle faisait finale de Roland-Garros, je crois. Donc, ou 17 ans, 16 ou 17 ans. Donc, contre Capriati, elle a perdu 12-10 au troisième set. Je crois qu'elle avait 16 ans. Elle était avec moi dans la classe. Donc, ça, c'était quand même… on s'est quand même rendu compte. Là, depuis, elle n'a plus été à l'école. Mais…
Un rapide break pour vous rappeler de mettre un like à cette vidéo et de récupérer les 14 secrets de préparateurs mentaux dans le premier lien en description. Et si vous voulez une autre ressource gratuite hyper cool, il y a les 5 conseils d'un cordeur pro pour choisir le modèle et la tension de cordage parfaitement adapté à votre jeu et mettre toutes les chances de votre côté en match. Second lien en description, on y retourne.
Et donc, moi j'ai quitté la FIA à 18 ans parce que aussi, bon, moi je me suis un peu, on va dire, pas disputé, mais la fédération, à ce moment-là, à 18 ans, il y avait trois joueurs qui sont nés en 82. Et donc, à ce moment-là, il fallait donner une bourse aux joueurs. Bon, en Belgique, il n'y a pas beaucoup d'argent, on va dire, pas beaucoup d'aide, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de subsides à cette époque-là. Et on va dire, il y avait 20 000 euros à diviser pour trois joueurs. Mais en fait, ils ont divisé par deux joueurs. Et donc, en fait, moi, ils ne m'ont rien donné. Et pourtant, à l'époque, moi, j'estimais, j'avais fait quart de finale à Roland, quart de finale à Wimbledon. On avait gagné le double à Wimbledon. Donc, j'avais quand même été dans les 10 meilleurs en simple et en double. Donc, j'estimais que j'ai mérité plus. Et donc là, je me suis disputé avec eux. Et ben, je leur ai fait comprendre que voilà, j'allais quitter. J'avais à ce moment-là un agent qui travaillait pour moi, Vincent Stavo, qui était agent de Justine Hanna à ce moment-là aussi, qui était aussi déjà à ce moment-là, je crois que dans les 10 meilleurs au monde. Et donc, je l'ai appelé, j'ai écouté. Moi, j'ai plus d'entraîneur, j'ai plus de centre d'entraînement, donc il faut me trouver quelque chose. Et lui m'a trouvé, en fait, Philippe Dehas, qui était coach de Kasatkina maintenant. Il a fait une vidéo, il est devenu connu maintenant avec les vidéos comme coaching. Et lui, en fait, il n'avait pas d'expérience, moi non plus. On s'est rencontrés et on a commencé à bosser ensemble. J'ai déménagé de la Flandre en Wallonie parce qu'il était à Bruxelles. Et on a commencé à bosser ensemble et lui m'a amené jusqu'à 160 directement. Mais bon, je veux dire, on a bien travaillé. Je veux dire, on a fait des futurs, des challengers, tout ensemble. Mais ça a été vite, tu vois, ça a été très vite.
Attends, brûle pas les étapes. Tu parlais des juniors. Ton meilleur résultat, du coup, ton meilleur souvenir, c'est quoi? C'est d'avoir gagné en double à Wimbledon?
Oui, parce que ouais, ça reste. Parce qu'après, il y a une soirée de gala avec tous les vainqueurs.
Tu peux nous raconter cette soirée, justement?
Pardon?
Tu peux nous raconter cette soirée, justement? C'était qui les vainqueurs à ce moment-là?
C'était Sampras. Je l'ai vu. Sampras avait gagné. Et en fait, bah, nous, on ne s'est pas rendu compte. Tu vois, c'est nouveau. On a 18 ans. On gagne Wimbledon Junior. On est là. Bon, on a bien compris qu'après le match, il y a un mec qui vient dans les vestiaires, qui vient prendre toutes les mesures de tes vêtements, de trucs. Et bon, nous, on se dit, attends, c'est quoi, ma pointure de chaussures, c'est quoi ce qui se passe ici? Et mais là, on se rend pas vraiment compte, parce que bon, oui, il y a un mec qui donne une chemise blanche pour essayer. Bon, ok, le mec met des trucs. Toi, t'es là, j'ai 18 ans. Bon, Dominic Kuhn, avec qui j'ai gagné, on se regardait, on se disait, bah, qu'est-ce qu'on fait là? Et bah, en fait, le soir, on s'est rendu compte qu'une fois qu'on était habillé, on se regardait tous. On se disait, mais il y a un problème, on va où ici? Et donc là, je me rappelle, il y a une voiture qui nous venait nous chercher et puis nous déposer. Mais je ne me rappelle pas où c'était. J'aurais une femme renseignée, je ne sais pas où on a été. Et c'est là qu'il nous disait, ouais, mais il y a tous les vainqueurs de Wimbledon, de tous les temps qui sont là. Je dis, mais non, c'est possible. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Et puis, on était à table et Christophe Dallet était coach de la fédération au moment-là. Et avec eux, on a passé une soirée incroyable parce que nous, au début, la première heure, je ne pense pas qu'on a osé dire un mot tellement qu'on était impressionné par les gens déjà. Rien ouais. que de marcher vers l'entrée, il y avait tous les journalistes, il y avait le tapis rouge. Et nous, on se disait, mais attends, il n'y avait que des flashs dans les yeux, on regardait. C'était un peu, on va dire, on a savouré le moment, mais après, je me dis, mais qu'est-ce qu'on a vu faire ici, quoi, nous. Et en plus, à ce moment-là, je sais que quand tu es dans la soirée, je me rappelle de ça, qu'ils annoncent les vainqueurs.
Ouais.
Il fallait se lever à un moment donné.
quand c'est le minimum.
Donc, nous, on s'est levé à deux, comme deux crétins, comme deux cons, mais. Et bon, là, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Tu ne te rends pas compte. Mais je me rappelle aussi que quand je suis revenu de Wimbledon de cette année-là, à ce moment-là, il y avait un challenger à Ostend. Et on avait reçu une wildcard pour ça en simple. Mais bon, moi, j'ai perdu contre Julien Bouter.
Ouais.
6-4, 6-4. Et...
Non, juste avant la cérémonie, là, il y a une danse normalement entre le vainqueur et la gagnante féminine. C'était qui là?
Je me rappelle même pas. Ben, je crois que c'est Sampras avec Venus Williams, je crois, mais je me rappelle même pas qu'ils ont fait ça. Parce que Sampras, en fait, cette année-là, il fallait un nœud de papillon. Lui, là, il n'en a pas mis. Et je pense qu'il a eu. Je me rappelle après, il est venu. Déjà, il est en retard de je ne sais combien de temps. Et il n'avait pas de nœud de papillon, donc il ne pouvait pas rentrer à la base. Et bon, lui, à mon avis, vu qu'il avait gagné je ne sais pas combien de fois. Ouais. Il est rentré là, mais il a fait son speech, mais il n'est pas resté, lui. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, à 18 ans, tu ne te rends pas compte ce qui se passe, nœud de papillon ou pas. On était déjà content d'y être.
Le challenger la semaine d'après, il s'est passé quoi?
J'avais wildcard là, mais bon, j'avais pu jouer sur terre battue, donc j'ai joué contre Julien Bouter. Qui en France, il a quand même, il faisait série volée, le mec. Il faisait kick. Moi, j'avais 18 ans, les balles rebondissaient au-dessus de ma tête. Mais j'ai perdu que 6-4, 6-4. Et. De nouveau, à ce moment-là, on ne se rend pas compte. Moi, j'ai joué mon match, 6-4, 6-4, c'est sympa, je voyais tous les joueurs. Et lui, il est venu me voir après. Et moi, je regardais, mais je pense que lui était 80e mondial ou un truc comme ça, il était déjà bon. Et lui, il me regardait, et il est venu me parler, et il me disait que j'allais vraiment être bon. Et moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu viens me parler? Et après les années qu'ils ont filé, je le voyais dans les tournois, et quand j'ai fait le tournoi de Metz, il était directeur du tournoi. J'ai dit, putain, c'est incroyable que... Et en fait, il y a des moments, pas clés, mais des moments que tu te rappelles. Tu te dis, mais oui, mais j'ai rencontré lui, en fait. Et à ce moment, je l'ai joué contre lui, et là, maintenant, il est là. J'ai eu le même coup avec Olivier Malcor. Et lui, il a gagné l'année d'après les Challengers d'Ostende. Et lui, il a gagné, et moi, je l'ai joué premier tour qualif. Et j'avais eu plein de balles de break, j'avais eu plein d'occasions, mais... perdu, j'avais mouillé un peu, tu vois. Et lui, en fait, 10 jours après, il gagne le tournoi. Et je l'ai rencontré après, je dis, mais putain, que moi, t'as fait gagner, parce que moi, contre moi, t'aurais dû perdre. Elle me dit, contre toi, j'aurais dû perdre 9 fois sur 10.
Ah ouais, incroyable.
Et...
Julien Bouter était un peu le mentor aussi de Christophe Rocus, au départ.
Ah ouais, parce qu'ils ont fait les matchs par équipe à Metz.
Ouais, et puis ils ont gagné Chennai en double et Julien l'a vachement conseillé financièrement à placer, à faire de l'immobilier.
Ouais,
et, exactement. Ouais. Il m'a raconté, c'était intéressant. Est-ce que tu peux nous raconter ton tout premier point ATP? Où c'était et ce que tu as ressenti?
En fait, je l'ai reçu en jouant contre Julien Bouter, parce qu'à ce moment-là, quand tu faisais Challenger Tableau Final,
j'avais pas le temps,
donc ils m'ont donné le point en fait. Bon, on va dire qu'ils me l'ont donné parce qu'ils n'avaient pas le choix, parce qu'on avait bien joué à Wimbledon, mais. Oui, je l'ai reçu mon premier point.
Ok.
Je l'ai reçu gratuitement. Je devais juste monter sur le terrain, en fait. Parce qu'à ce moment-là, le règlement faisait que tu avais un point ATP quand tu faisais tableau final d'un challenger. Donc, moi, je l'ai reçu. Donc, je n'ai jamais ressenti ce que plein de joueurs ressentent en disant oui, il me faut un point ATP, il me faut un point ATP. J'ai dit non, tu le reçois. J'ai jamais été vraiment occupé avec le fait de gagner des points, en fait. J'ai joué au tennis. Bon, bien sûr, à un moment donné, quand tu as plein de points, il faut les défendre. Là, tu te rends compte, oui, cette semaine-ci, c'est important. Mais je dois dire que quand j'avais 18-19 ans, j'ai été vite vers l'avant. Donc, j'ai jamais eu, on va dire, problème de points. On va dire. Ils revenaient, ils arrivaient.
Ouais, tu as traversé assez rapidement. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as vécu justement parfois cette traversée un peu de la jungle des futurs et des challengers qui est... Les conditions sont quand même très différentes du circuit principal. Toi, tu l'as vécu comment?
Je l'ai vu comment? Parce que j'ai fait que 11 futurs de ma vie.
Ah oui, pas beaucoup. Ouais.
Donc, non. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que bon, les futurs, j'en ai fait 11. Quand on gagne 2 directement, ça facilite la vie, quoi. Et c'est vrai que les futurs, déjà à ce moment-là, c'était un peu le jungle. Ça, tout le monde le savait. Et moi, en fait, je suis monté 500, 600 vite fait. Et là, j'ai fait le choix d'aller faire toutes les semaines des qualifs de Challenger.
Ok.
Je ne faisais plus de futurs, je m'en foutais.
La deuxième année?
Pardon?
C'était la deuxième année ou c'était directement la première année?
C'est directement la première année, la fin de la première année, je commençais.
D'accord.
Et bon, au début, bien sûr, je ne me suis pas toujours qualifié, mais à un moment donné, je me qualifiais quasiment tout le temps. Je passais un tour ou deux. Donc, ça me faisait chaque fois entre 10 et 15 points.
Ouais.
Avec 10 et 15 points, quand tu es 500 au monde, tu fais ça, tu fais deux fois par mois, tu fais ça, tu ramènes 30 points par mois.
Ça
te fait 300 points, parce qu'on va dire, tu joues 10 mois, avec 300 points, à ce moment-là, tu étais, je crois, 150, 200.
Ouais,
donc, et c'est là que j'ai terminé mon année, en 2002. J'ai terminé 160 fin 2002, et j'avais joué à ce moment-là 18 mois de futur et challenger. Ça a été vite.
Est-ce que tu te souviens la pire galère que tu as eue sur ces tournois un peu décalés, enfin une tournée un peu dantesque avec des conditions hors normes?
J'ai fait un satellite. C'est ce que c'est encore un satellite?
Ouais.
J'en ai fait un, et en fait, c'était prévu qu'on allait jouer sur dur toutes les semaines au Portugal.
Ouais.
Et la première semaine, on joue sur dur, la deuxième semaine, il fait dégueulasse. Il faut jouer à l'intérieur sur terre. Dramatique. Et il y avait plein de Français. Julien Varlet, il y était.
OK.
Et avec lui, j'ai encore un bon petit contact maintenant aussi, parce que je m'amuse bien avec lui. Et j'ai fait, en fait, la première semaine, j'ai fait demi, la deuxième finale, la troisième, j'ai gagné. Donc, il fallait faire le Masters la quatrième semaine. Mais c'était une galère parce qu'il fallait rester 3 semaines au même endroit. Et en fait, c'était prévu de jouer 3 fois extérieur. On a joué 3 semaines indoor sur terre. Un truc complètement... Allez, on va dire les balles, ça n'allait plus du tout, c'était dramatique. Mais bon, vu que j'ai gagné plein de matchs, je suis revenu avec 50 points. J'ai terminé deuxième de ce satellite-là, je crois.
Mais c'était finale, ça ?
Non, je ne devais même pas le faire, parce que j'avais fait demi la première semaine, finale la deuxième et gagné la troisième.
D'accord.
Donc, je pense que j'ai perdu en quart le Masters, parce que j'avais... Parce qu'en plus, à ce moment-là, il y avait un maximum de points qu'ils pouvaient prendre.
Ouais.
Et je pense que j'en ai ramené 54, je crois, un truc comme ça. Et donc, à ce moment-là, quand il revient après un mois avec 54 points, ça va plus vite, quoi.
Ouais, tu m'étonnes.
C'est autre chose que les mecs qui ils en gagnent un, qui prennent 15 points, quoi.
Ouais. À troisième année, déjà, tu t'intègres le top 100. Est-ce que, autant pour ton premier point ATP, tu n'as rien ressenti parce qu'on te l'a donné? Autant pour le top 100, tu es allé le chercher. Est-ce qu'il y a une certaine fierté? Comment ça s'est passé?
Là encore, donc ça c'est fin 2002, je termine 160. Et c'est la première fois que je peux faire les qualifs des Grands Chelems en Australie. Et donc avec mon coach, Philippe, à ce moment-là, on dit on va faire quelques semaines avant, on va aller à Adélaïde. C'était l'ATP 250.
Ouais.
Et on arrive là. Et là, c'est une chouette anecdote parce qu'on est là, bien sûr, 5 jours à l'avance. Parce que voilà. Et tous les jours, on a un peu la salle de fitness. Et il y avait l'Australien à ce moment-là qui jouait encore, Wayne Arthurs, le gaucher, il était là. Et j'avais l'impression, il disait bonjour, mais il ne disait pas bonjour. Il avait l'air d'être vraiment hautain comme ça. Et je le voyais tous les jours en fitness un peu. Et j'essayais de mettre un peu contact avec lui. Bonjour, ça va, truc, ouais, pas de réponse, ça va. Et il y avait un autre gars dans la salle de fitness, mais qui habitait à Adélaïde, mais ça, je ne savais pas à ce moment-là. Qui vient et j'étais en train de m'étirer et le gars me demande c'est quoi les objectifs pour cette semaine-ci. Et moi, je lui dis, écoute, franchement, si je peux me qualifier, déjà, ce serait très bien parce que c'est la première fois que je fais ce tournoi-là, quoi. Donc, je n'avais jamais fait. Si je peux me qualifier là, c'est déjà 3 tours des qualifs. Et le gars me dit, je viendrai te voir demain, qui me dit. Et c'est sympa, merci. Et le dernier tour qualif, j'ai joué contre Toursunov. Qui est aussi
Dimitri.
Monté 20 ou 30 à un moment donné. J'ai gagné 6-4 au troisième. Et en fait, cette semaine-là, j'ai perdu la finale. Contre Davydenko, j'étais en finale, j'ai gagné le premier tour contre Enqvist qui était 20e mondial, mais il y avait un vent de malade, il n'arrivait pas à servir, il faisait plein de doubles fautes. Lui, dans le vent, ça n'allait pas du tout. Et après, j'ai eu un petit tableau sympa parce que j'ai joué Irvin Palmer en anglais, Alberto Martin qui était 50 au monde, mais sur dur, c'est un espagnol, donc ça allait. Et puis en demi, j'ai battu Krajicek. Ça, c'était vraiment sympa.
C'est énorme.
Et en fait aussi, dans le club, il y a une allée. Quand tu arrives, ils te déposent. Il y a une allée vers les vestiaires. Et en fait, tu as toutes les photos de vainqueurs.
Ouais.
Et en fait, le premier jour, quand je suis arrivé là avec lui, j'ai dit, putain, ça peut être sympa quand même, une fois un jour, avoir ma tête sur un mur comme ça. Ça va être drôle quand même. Et tous les jours, on se le disait. Et en fait, le dimanche, quand je suis arrivé, je dis avant la finale, je dis à Philippe, tu te rends compte, on y est là, c'est pas possible ça. Et j'ai perdu la finale contre Davydenko, 6-3, 7-6. Et tellement que mes émotions, à ce moment-là, ça n'allait pas, pendant le match, après trois jeux, j'ai dit à mon coach, j'ai dit, ça va aller, c'est bon. Et lui, il était un peu surpris que je disais ça, parce qu'il était 2-1 ou un truc comme ça. Et deux minutes après, je lui ai dit, non, ça va pas aller. Parce que je sentais que ça allait, puis ça n'allait pas. J'étais complètement perdu.
Ah oui?
Oui, j'étais stressé énorme parce qu'il y avait du monde. Bon, le premier tour qualif à Adelaide, il n'y avait personne. J'ai joué sur le 24 derrière, voilà, tranquille.
Ouais, ouais.
Et bon, à un moment donné, tu avais des conférences de presse à faire. Tu avais des contrôles antidopage à faire. Tu savais plus quoi faire. Tu allais manger au restaurant à Adelaide le soir. Le premier soir, tu allais manger là, quelque part, c'est facile. Mais à un moment donné, on se retrouvait avec des gens autour de nous qui venaient un autographe, une photo, un truc. Mon agent qui m'envoyait des textos en me disant « Chris, il y a un journaliste belge qui va t'appeler. » Je dis « Mais non, je joue au tennis, moi, je n'ai pas besoin de tout ça. » Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours, on va dire, pas poursuivi, mais je n'ai jamais été bon à parler avec la presse parce que je n'avais pas envie de leur parler. Ouais. Je voulais jouer au tennis, moi. Prétentieux ou quoi, mais j'avais rien à dire. Je voulais juste jouer au tennis. Mettez mon score dans le journal si vous voulez. Vous voulez savoir quelque chose, ok, mais ne me posez pas des questions sur tout ce que je fais. Je joue au tennis. Et donc, j'ai eu plein de moments, surtout avec la presse belge, plein de moments difficiles.
Ouais.
Parce que déjà, il y avait Kim et Justine qui prenaient, logique, toute l'attention parce que j'étais numéro 1 du mondial. Mais les journalistes, donc ils venaient dans les tournois, juste dans les grands chelems. Ils venaient en Australie, ils venaient à Roland-Garros, Wimbledon, l'US Open. Mais à Roland-Garros, ils posaient des questions sur le mois de mars que tu avais fait Indian Wells Miami. Bah, je n'avais pas trop envie de répondre déjà. Je me dis, mais non, je suis à Roland-Garros. Moi, mais non, si ça s'était bien passé, tu avais fait quart de finale, c'est plus facile de parler. Si tu avais fait une mauvaise défaite ou une sale défaite, ou ça, c'est une période dure pour toi pour n'importe quelle raison, tu n'as pas envie de parler. Donc, j'étais sec, j'étais pas bon avec les journalistes. Je sais que j'ai jamais été très bien.
Donc, t'as eu l'impression de devenir vraiment professionnel à ce tournoi d'Adélaïde?
Ah ouais, parce que donc à la base, j'allais faire Adélaïde, Sydney, Melbourne, les cailloux de Melbourne. Sydney, j'ai pas pu le faire, parce que j'étais encore à Adélaïde, mais je devais passer mon avion. Mes billets d'avion, c'était réglé pour ça. Donc, on est passé par Sydney. On est resté deux jours à Sydney pour voir un peu. Et même là, quand j'allais voir les matchs de tennis, moi, j'allais juste voir les matchs de tennis. Les gens venaient parce qu'ils m'avaient vu en Australie, à Adélaïde, faire finale de tournoi. Ils venaient demander des photos, des autographes. Et que moi, je sais qu'avec mon entraîneur, je dis à Philippe, écoute, on ne fait pas ça. On se casse, on va ailleurs. Donc, je sais qu'à ce moment-là, Sydney, en plus, c'était un tournoi ATP et WTA. Donc, je me retrouvais avec plein de Belges pour la première fois.
Ouais.
Parce qu'avant, j'étais en Challenger. Il y avait des Belges, mais là, je me rendais compte que j'avais Malice, les deux frères Rocus qui étaient là. Tu avais Kleister Zenin qui était là. Et donc, je me rendais compte que je rentrais dans un petit cercle de pro, quoi. Et moi, j'étais juste le petit gamin qui arrivait, entre guillemets, j'avais 20 ans, je venais de faire finale à Adélaïde, mais dans la tête, j'avais 15 ans.
Donc, tu as été tableau direct à l'Open Australie?
Non, j'ai perdu le dernier tour qu'il y a contre Toursonov.
Ah ouais?
Le Volman.
La revanche de Dimitri.
Ouais, 6-4 au troisième, c'était une fois pour lui, une fois pour moi.
C'était un pote à toi, Tursunov, parce que c'est un sacré phénomène, lui.
C'est un sacré phénomène, et en fait, au début, il me faisait peur. Parce que moi, le gars, quand il va arriver, il a une tête, il a un physique incroyable, et il joue vachement bien au tennis. Il a une frappe de balle incroyable. Et en plus, il se donnait un peu un air. Je pense que dès qu'il sentait qu'il y en a un qui le regardait un peu bizarrement, il faisait exprès de de faire un petit pas méchant, mais c'était pas un copain, mais oui, on s'est joué quelques fois. On s'est joué quelques fois, et c'est vrai que ce mec-là, il avait, à un moment donné, il ne montrait rien comme émotion, puis il pétait trois raquettes, et puis il rejouait. Donc, c'était un gars. Moi, je le trouvais. Ces joueurs-là, je l'ai toujours trouvé sympa. Parce que je suis un peu moi-même, un peu comme ça. J'étais des raquettes, cassé, une fois gueulé. Donc, j'étais pas le plus calme non plus.
Quel a été ton plus gros pétage de plomb sur un cours?
À Monte-Carlo, l'Oblicic. Je pense que ça, sur YouTube, il y a moyen de le trouver, celui-là.
Je l'ai pas vu. Qu'est-ce qui s'est passé?
En fait, ça faisait 2 années de suite que j'avais perdu contre Nadal au 3e tour à Monte-Carlo. À chaque fois, en battant des bons joueurs, déjà, c'est une fois Polo, une fois Safin. L'année d'avant, j'avais fait 100 euros. Et chaque fois, je me retrouvais dans le petit carré de Nadal. Bon, lui, il était injouable. Donc ça, déjà, tu savais que voilà, tu vois le tableau. Bah, si je fais le 3e tour, c'est génial, on rentre. Et c'était la première fois, je n'y étais pas. Et je joue contre lui et je sais, et tout le monde savait, que Del Potro, son poignet, ça n'allait pas, qu'il n'allait pas jouer. Et ça, c'était mon 3e tour. Et je joue Lubdicic et je perds le 1er set. Je sauve balle de match au 2e set. Je gagne le tie-break du 2e. Et lui, il pète les plombs, lui. Il ne joue plus. Donc, okay. Je gagne mon jeu de service, mais il ne joue pas. Il laisse passer les balles. Je le break. Et là, il ne fait que des retours, mais dans le mur. Il les balance. Donc, c'est 3-0. Et je me dis, ici, c'est parfait. Il dit, on est parti. Hop, on y va. Et à 3-0, parce qu'il servait hallucinant, ce mec-là. Ouais. Premier, deuxième, il faisait que des aises tout le temps. Il tentait tous les deuxièmes. Il y allait. Mais bon, tu te dis, 3-0, c'est pas grave. 3-1, hop, il balance encore un petit jeu de retour. Bon, il finit 4-1. Et à 4-1, j'ai des balles pour faire 5-1. Et il souffle les balles, mais d'un ridicule. Mais c'est honteux de le voir. C'est honteux de le voir, de faire ça. Et 4-2, et là, ça commence. Il met un premier retour gagnant, il met un deuxième retour gagnant, mais il ne joue toujours pas, mais il aimait.
Ouais.
Et donc là, je me suis pissé dessus, il faut être honnête. Et 4-3, 4-4. Et quand je me fais briquer à 4-4, bah là, j'ai gardé la raquette en main, mais j'ai fait 2 morceaux en 3 coups. Mais là, sur YouTube, tu vas le voir, tu tapes ça. Il y a des gens en Belgique qui me disent encore ça, donc je pense qu'il y en a plein qui l'ont vu. Là, tu verras directement. Et c'est aussi, par exemple, donc je perds 6-4 au 3e. Ah. Et c'est aussi la première fois qu'un joueur me dit en me serrant la main, je suis désolé.
Ah ouais, incroyable. Beau gosse quand même.
Ah oui, là il me dit, je suis désolé. Il me l'a dit.
Et derrière, sur Del Potro, il fait quoi?
Ah, il joue pas Del Potro.
WO? Ah merde. Ouais, c'est con.
Donc là, déjà, tu te dis, oh là là là. Donc là, tu rentres chez toi, bon, tu t'es con. Là, tu sais plus comment tu t'appelles. Ouais, là, j'ai pété une. Ouais, après aussi, j'ai pété les plombs. Mais par exemple, là, il y avait Cédric Mourier qui est l'arbitre. Où il avait donné l'avertissement, ce qui est logique. Mais j'ai pas eu d'amende.
Ah ouais?
Ouais, parce que même Cédric m'a dit après le match, je te comprends. Oh. Et pourtant, j'étais des raquettes, cassé des raquettes. Plein de fois, j'ai payé des amendes. Et là, ils auraient pu me donner une grosse. Et je n'ai pas eu parce qu'ils ont compris.
Quelle a été ton amende la plus importante?
Ouf, la plus importante je ne me rappelle pas, parce que ça je n'ai pas noté, mais à Wimbledon, j'ai une fois laissé 8000.
Ah oui, quand même.
Ouais, j'ai laissé 8000 contre Gaël Monfils.
Ah oui, belle...
7-6, 7-6, 7-5. J'ai perdu.
Une belle facture, tu aurais pu partir en vacances.
Ouais, ouais. Donc là, j'ai une fois laissé 8000, ouais. Bah. J'ai eu des amendes, ouais, parce que voilà. Mais encore une fois de plus, quand j'ai dit que j'avais 20 ans quand je suis final à Adelaide, j'ai 15 ans dans la tête, c'est la vérité. Et c'est pour ça que, par exemple, le seul regret que moi j'ai par rapport à ma carrière, c'est que je n'ai pas pu jouer au tennis entre mes 30 et 35 ans.
Ouais,
parce que je devenais un peu adulte, on va dire.
Bien sûr.
Parce que quand je suis monté 30 au monde, encore là, cette année-là, bah, c'était magnifique. Tu montes, tu fais tous tes trucs. Mais il y a plein de moments où pendant l'année, que tu perds parce que ta tête est ailleurs.
Justement, pour suivre la chronologie là, de cette saison d'Adélaïde, tu bats Nalbandian, numéro 8 mondial à Barcelone. Je crois que c'est un de tes meilleurs souvenirs de carrière. Tu peux nous raconter le contexte du tournoi, comment tu arrives à aussi bien jouer sur ce match? Parce que Nalbandian sur Terre, c'est quand même une sacrée machine.
Bah, je venais d'arrêter de travailler avec Philippe Daz. J'avais plus d'entraîneur.
Ouais.
Et la semaine avant à Barcelone, il y a le Challenger de Barcelone. Donc, j'avais prévu de faire le Challenger de Barcelone plus les qualifs de Barcelone, de Godot. Et je suis là, je fais les Challengers, je perds la finale contre Wawrinka le matin et l'après-midi, il faut faire les qualifs. Et lui aussi fait ça. Et je fais les qualifs de Godot là. Et c'est un tournoi, on va dire, quand je suis arrivé, il me donnait bon espoir dans le sens que la terre battue était assez rapide. C'était bon, déjà le club est magnifique quand tu arrives. Tu dis, oula, ici, ça ne voit un truc. Mais tu es tout seul. Et je me rappelle que j'ai fait toute la semaine du room service. J'ai vu personne toute la semaine. Je me suis enfermé parce qu'il n'y a pas d'entraîneur, t'es un peu seul. Il y avait juste un joueur, c'est Raymond Sluiter, c'est un Hollandais, qui jouait tout à deux mains, là, avec qui j'ai encore souvent des contacts maintenant. Qui était là, je lui parlais au petit-déj, tu vois, un truc comme ça, je jouais mes matchs. Et j'ai par exemple joué à ce moment-là, donc j'avais pas d'entraîneur, mais bon, on était à la recherche d'un entraîneur, et vu que je m'entendais bien avec Laurent Raymond, l'entraîneur de 100 euros. À ce moment-là, bah, je m'entendais bien avec lui, je parlais un peu avec lui parce que voilà, mon agent le connaissait bien aussi. Et on parlait un peu, et c'est un monsieur qui est tout calme. Et moi, pas du tout. J'ai 38 ans aujourd'hui, je suis encore nerveux, moi. Donc à ce moment-là, il faut se rendre compte qu'à 24 ans, la pile d'énergie que je suis. Et on parlait de tout et de rien. Il me disait, par exemple, je sais que quand je vais jouer contre Kubek, premier tour tableau, il me disait, mais tracasse pas, il ne va pas jouer trop vite. Tu as peur de lui, tu ne vas pas avoir peur, tu joues bien plus vite que lui. En fait, il me calmait, il me rassurait, en fait. Il ne me disait rien sur son jeu, mais il me rassurait. Ouais. Parce que moi, je disais, Kubek, putain, il a fait quart en Roland. Il me disait, non, t'inquiète, ça va aller. Bah, je jouais, puis je me rendais compte après 5 jeux, bah oui, en fait, il ne joue pas si vite que ça, en fait, ça va. Donc, j'ai gagné. Puis, je jouais Saretta, qui avait fait aussi quart Roland l'année d'avant.
Flavio.
Oui, qui lui me dit, là aussi, Laurent me disait, mais Chris, il est nerveux, tu te rends pas compte. T'inquiète, joue ton match, tu verras. Bah, tu gagnes, hop, c'est une nouvelle partie. Et au troisième tour, j'ai joué Olivier Patience.
Ah, la passe.
Il pleuvait ce jour-là. Il pleuvait ce jour-là, mais tout le temps. Et en fait, lui, il s'est endormi dans un fauteuil.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et moi pas. Et en fait, à un moment donné, ils ont annoncé qu'on jouait dans les 45 minutes. Mais lui, il dormait. Et personne ne l'a réveillé parce qu'il était tout seul comme moi.
T'as fait exprès de le laisser dormir?
Bah oui, j'ai pas été lui dire, Coco, réveille-toi. J'ai pas dit non plus, va t'échauffer, toi. Et donc, lui, je suis certain qu'il a raté le début de son match parce qu'il s'était endormi. Et moi, je savais que je devais être prêt. Et au début de match, il n'y était pas du tout, lui. Ouais. Donc, lui, en fait, lui, il a raté le début de match et bon, il n'a jamais su récupérer le match. Et ça, je suis certain parce qu'il s'est endormi dans le fauteuil, parce que c'est vrai qu'il pleuvait. Puis, à un moment donné, le soleil est sorti. Je crois que 20 minutes après, on jouait. C'est vrai que ça allait super vite. Les terrains séchaient d'une vitesse. Ça, en Belgique, ça n'existait pas, ça. Ouais. Et là, bah ouais, quand j'ai joué Nalbandian, bah là, c'est aussi, on va dire, le truc. Il était de mon âge. Donc, je le connaissais. Donc, il ne me faisait pas peur parce qu'il est né en 82 comme moi. Je l'avais vu jouer plein de fois. Et là, Laurent Raymond m'a dit aussi, il ne joue pas vite. Il ne rate pas, mais il ne joue pas vite. Mais là, je vais pour la première fois cette semaine-là, je vais sur le central. Il était plein. Et là, par exemple, je sais que quand j'ai joué ce match-là, j'étais tellement bien, j'étais tellement relax. je jouais au tennis. Je ne pensais pas aux gens autour. Ou... Je n'avais pas d'entraîneur qui pouvait me soutenir ou quoi. J'étais seul. Je ne m'énervais pas non plus parce que j'avais personne pour m'énerver, pour dire quelque chose. Et en fait, je l'ai battu dans le truc. C'est que ça me paraissait à ce moment-là, je ne dis pas normal, mais ce n'était pas non plus un exploit incroyable. Je n'avais pas l'impression que j'avais fait l'exploit de l'année. Et bon, après, avec le recul, quand tu réfléchis, c'était quand même un truc énorme ce que j'ai fait là. Mais à ce moment-là, tu étais bon dans le truc, le lendemain, il fallait rejouer.
Tu sortais une grosse partie quand même ?
Pardon ?
Tu avais fait une grosse partie quand même ou juste solide ?
Je crois qu'à ce moment-là, pour mon âge, à ce moment-là, j'ai fait une grosse partie, j'ai fait un gros match à ce moment-là. Mais tout ce que je faisais à ce moment-là, ça me paraissait normal en fait. C'est bizarre de dire ça, mais il y a plein de moments, j'ai trouvé ça normal parce que ça faisait quelques années, on travaillait dur. Christophe Francus et moi, on s'entraînait pendant 5 ans ensemble.
Ouais.
On travaillait dur tous les jours ensemble. Donc, j'avais l'impression que vu que je travaille dur, c'est normal que je suis récompensé. Ce qui n'est pas vrai, parce qu'il y en a plein qui le font, qui n'arrivent pas à faire ça. Mais pour moi, c'était un truc à ce moment-là relativement normal.
OK.
Mais par exemple, après ce match-là, mon staff, à ce moment-là, mon agent, mon préparateur physique et moi aussi, on a fait une grosse erreur après ce match-là.
C'est quoi ?
C'est qu'ils sont venus me voir pour la demi-finale parce qu'ils n'ont pas voulu me laisser seul. Ce qui est logique parce que mon agent, ça fait des années qu'il est avec moi. Mon préparateur physique, ça fait des années qu'il est avec moi. C'est logique, ils ont envie d'y être. Et moi aussi, je veux qu'ils soient là. Et par exemple, je sais qu'ils sont arrivés le matin au petit déj tôt. Et moi, en fait, j'avais fait room service toute la semaine. Donc moi, j'avais vu personne. Là, je me retrouvais une fois au petit déj avec plein de gens.
Ouais.
Et je devais parler avec des gens. Ah, c'est logique, tu parles. Et donc, tu arrives au club, tu es avec des gens, tu vas t'échauffer. Je m'étais échauffé tous les jours physiquement à ma façon.
Ça t'a mis un peu de pression ?
Ça met une pression. Forcément, ça m'a mis une pression parce que mon entourage a changé dans le sens que l'entourage, il n'y avait pas. On va dire que c'était moi. Mais une fois, il y avait deux personnes pour qui j'ai envie de bien faire à ce moment-là. Ce qui est aussi logique et c'est normal. Et c'est normal qu'eux, ils ont voulu être là aussi. Mais avec le recul, avec les années que tu réfléchis, je sais que si j'étais encore une fois dans cette position-là, je leur aurais dit, vous restez à la maison, vous me laissez faire, allumez la télé, vous trouvez quelque chose.
On a fait un épisode avec Arnaud Clément qui me racontait sa finale à l'Open d'Australie, qui avait fait exactement la même erreur pour la finale. Il a payé, il a offert un billet à ses parents qui sont venus juste pour la finale.
Il me l'a dit. Ouais.
Et avec du recul, exactement le même constat, quoi.
Et lui, il est passé à côté de son match incroyable. Bon, c'était Agassi à ce moment-là, je crois, non ?
Ouais, Agassi jouait très bien. Maintenant,
il avait battu Grosjean en demi, là, c'est ça ?
Il a battu Grosjean en demi. Clément avait mis 3-7 à Agassi à l'US Open l'année d'avant, donc fin d'année. Et là, il le retrouve en finale et il s'est fait marcher dessus, ouais.
Ouais, là, je me rappelle de ça. Donc, ça, c'est par exemple, ce tournoi-là, c'est... J'aurais jamais dû faire venir quelqu'un à ce moment-là. J'aurais dû refuser. Mais comment tu veux refuser à... J'avais 21 ans, c'est les gens avec qui tu travailles. Tu es un peu dans l'euphorie. Ouais. Et j'ai perdu contre... Je crois que c'est Robredo que j'ai perdu, non ? Je crois que j'ai perdu contre Robredo 6-4, 6-4. Mais je crois que j'ai 11 ou 12 balles de break. Je pense que j'ai fait 0 sur 12, je pense. Ou 0 sur 10, un truc comme ça.
D'accord. Ouais, Est-ce que t'as la notion...
J'aurais pas dû le perdre, forcément.
Ouais. Est-ce que tu as la notion de ce que tu gagnes à ce moment-là en argent ou t'es euphorique et t'es concentré sur ton tennis ?
Je savais avant chaque match combien je pouvais gagner.
Très sérieux. Déjà le sens du business.
Je ne me rappelle pas les fact sheets maintenant parce que je ne les ai plus vus, mais les fact sheets à l'époque, c'était donc en bas de la page, tu avais les points 0, 20, 45, 90, 90, 150, 250. Et en dessous, tu avais l'argent. 3 400 aidés, 5 400, 10 400, 17 000 et 34 000, je crois. Je savais, oui. Je savais combien je pouvais me faire ce jour-là. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas oublié ça certaines fois pendant un match. Hein, ça.
Ah oui, ça joue, ouais, effectivement. Ouais. T'as ressenti quoi pour ta première finale, du coup, qui était sur, certainement ton premier gros chèque?
C'est pas rendu. Ouais, vu que l'argent, tu l'as pas en main, c'est vite passé, ça. Mais bon, c'est vrai que quand tu reviens, tout ça, par exemple, la première année que j'ai bien joué, mon comptable, il m'appelait, parce que moi, je m'occupais pas du tout de mes finances, je jouais au tennis. J'ai payé les factures à pied, mais voilà. Et mon comptable, une fois, il m'appelait, il me dit, Chris, tu comptes faire quoi avec ton argent? Bon, je sais pas, c'est ce qu'il faut faire avec. Et il m'a dit, écoute, soit tu vas te donner, tu vas payer plein d'impôts en Belgique maintenant parce que tu fais pas de frais, soit tu commences à faire des frais. Et il me dit, ben, je lui dis, mais tes frais comment? À comment vous acheter une maison, tu me dis? J'ai une maison, putain, une maison. Et il m'a donné un budget, que je ne vais pas dire, mais il m'a donné un budget, hein, quand même. Et après avoir acheté la maison, il m'a dit, Chris, il faut plus. J'ai dit, putain, encore rien. Et j'ai acheté ma première grosse voiture. Et donc, à ce moment-là, voilà. Et ça, par exemple, ça prouve un peu que j'avais de l'argent sur le compte tout le temps, en fait, mais je ne m'en occupais pas. Je savais combien je pouvais gagner à ce moment-là, c'est une motivation. Mais je ne regardais pas le lundi matin en me disant, est-ce qu'ils m'ont payé? Est-ce que tout a été fait? Est-ce qu'ils...
Ouais, bien sûr.
Ça, je m'en occupe pas du tout.
À ce moment-là, ton coup le plus naturel, c'est toujours l'amorti ou ton jeu a un peu évolué quand même?
À ce moment-là?
Ouais. Quand t'es vraiment... Quand t'es en train de t'installer sur le circuit?
Bah, c'est, au début, c'est l'amorti, ça c'est sûr. Ça, je suis plein d'amorti. Dès qu'en fait, les joueurs étaient plus forts que moi, je suis amorti toutes les deux balles, limite. Que je voulais, par exemple... une année, j'ai joué contre Niminen à Monte Carlo. J'ai gagné 1-6, 7-6, 7-6. Et le premier set, j'avais 6 ans, parce que j'ai joué solide, mais lui était 3 fois plus solide que moi. Et je pense que lui, il en a ramassé 60, je crois, sur 2 sets. Juste que de courir, aller la chercher, gagner le point à pas, peu importe. Mais il jouait. Je ne lui donnais plus du tout l'occasion de s'installer dans son jeu à lui. Je ne voulais plus qu'il se sentait au-dessus de moi par rapport aux échanges. Je lui donnais pas l'échange.
D'accord.
J'ai toujours eu, comme on va dire, tactique, c'est un gros mot, mais j'ai toujours eu le truc, c'est que l'adversaire qui jouait contre moi, s'il me battait, il n'allait pas sortir du terrain avec un sentiment en disant « Putain, j'ai bien joué, c'était chouette aujourd'hui, je me sens bien. » Il allait toujours dire « Putain, il m'a cassé les couilles celui-là. » C'est ça que je voulais crier, en fait. J'ai toujours voulu crier ça.
Et concrètement, comment tu le travaillais à l'entraînement?
L'amorti?
Ouais, tes variations?
Ah, parce qu'à l'entraînement, je faisais ça naturellement, je faisais ça direct. Avec Christophe Rockis, par exemple, son jeu est aussi atypique. Nous, on se jouait, mais on faisait de l'amorti tous les deux balles. C'est parce que tous les deux, on faisait ça de nature. Donc, il y avait plein de moments où on jouait avec la main. Et bon, on jouait bien au tennis, c'est pas ça, mais c'est que, fur et à mesure, au début, mon amorti, bon, à la fin, c'était plus les services et le coup droit qui prenaient le dessus. Mais aussi, je faisais l'amorti parce que je ne me faisais pas confiance en revers.
D'accord.
Et donc, en fait, pour fuir l'échange en revers, je me faisais l'amorti et je me mettais dans les conditions où je me sentais bien. Donc, parfois, je fais des amortis où les gens disaient, mais attends, c'est quoi comme balle pour amorti? Bah, c'est parce que je ne voulais plus faire de revers.
D'accord.
C'est pour ça que, par exemple, quand j'ai joué les Espagnols de mon âge, même les Argentins, tout ça, sur terre battue, à un moment donné, contre moi, c'était au début de ça, ils se mettaient super loin pour retourner.
Ouais.
Et en fait, ils faisaient quoi? Ils mettaient une balle 4 mètres en l'air, ils mettaient haut dans mon revers. Et eux, ils étaient installés dans l'échange. Et moi, j'étais installé dans l'échange où je ne voulais pas être. Et donc, je faisais des séries volées, des amortis. Donc, je ne jouais pas du tout les échanges contre eux. Pas du tout.
D'accord.
Ouais. Parfois, ça n'allait pas du tout. Mais par exemple, à ce moment-là aussi, eux, ils ne trouvaient pas le rythme de faire plein de frappes. Il y en a plein des Espagnols à ce moment-là, ils voulaient décaler. Robredo, il était 4 mètres derrière, il faisait que décalage, il faisait plein d'énergie, tout ça. En fait, je ne lui donnais pas ces balles-là. Je ne voulais pas qu'il donne. Je lui donnais balles dans son coudron, mais pas pour décaler. Je ne voulais pas lui donner ça.
En 2005, justement, tu sors Coria, mais à balles, hein, sur dur.
Ouais. Ouais.
Donc, ce n'est pas forcément les mêmes conditions, mais ça reste un joueur avec cette filière de jeu assez long. Tu te souviens de ce match que tu as sorti?
Oui, oui. Mais c'était le début avec ses doubles fautes.
Ah d'accord, il commençait à picoter.
Là, il commençait. Et en fait, avec mon entraîneur, là aussi, je crois qu'il y a moyen de trouver les images. C'est qu'on a été voir son premier tour et on voyait ses deuxièmes services à 110 à l'heure au milieu du carré. Et là, on se disait, oh là là là. Et donc, avec mon entraîneur, on avait dit, c'est marrant ça quand même, parce qu'il y a plein de trucs qui reviennent maintenant que tu me poses la question. J'avais dit avec mon entraîneur, la première fois qu'il va faire une deuxième balle, je vais prendre mon coup droit et j'envoie une ogive, peu importe où elle arrive. Mais elle va partir à 200 à l'heure. Juste pour lui faire comprendre qu'avec ta deuxième balle là, ça n'ira pas aujourd'hui. Et j'ai gagné le tirage au sort et je lui ai dit je reçois. Et il rate sa... donc on commence le match. Il rate sa première. Je regarde mon entraîneur. Il a une casquette blanche Dunlop. Je me rappelle toute ma vie. Qui me regarde. Et je fais ma tête. Je dis oui. Elle arrive la balle. Et je mets une ogive la plus forte que j'ai fait de ma vie. Elle est rentrée dans le terrain en plus. Ça, c'est un peu un coup de bluff, tout comme ça.
Croisé, long de ligne ?
Croisé, à fond. Mais il ne l'a même pas vu passer. Mais personne ne l'a vu passer. Même moi, je ne l'ai pas vu passer. Et mon entraîneur a tellement à fou rire qu'il a dû se cacher derrière sa casquette tellement qu'elle partait vite. Et parce que moi, je n'ai pas vu la réaction de Coria à ce moment-là. Ouais. Moi aussi, je l'ai vu partir. J'ai rigolé aussi. J'ai regardé, oh là là, ça... Là, il me pose la question ce qu'il pense. Et apparemment, après ce service-là, il a regardé son entourage et il a eu un coup de panique direct. Mais moi, je ne l'ai pas vu. Mais tout le match, dès qu'il faisait deuxième, il savait que ça n'allait pas aller.
Tactique gagnant. Donc,
il faisait première, deuxième, il faisait kick revers et jouait le point sur dur.
Okay.
Donc là, je retournais toutes les balles. Et bien en sûr. Fait, ça, je suis certain, parce que je lui ai montré le premier point, voilà, avec cette balle-là, tu ne vas pas venir.
Quel était le score ?
Une semaine après, il fait ses 20 doubles faux, 30 doubles faux, je joue, là, 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 là.
Ouais.
C'est incroyable, je l'ai eu.
Ouais, très, très dur. Mentalement, c'est dur. Hein. Ouais. Derrière, tu te qualifies à Roland, c'est ça ? Tu sors des qualifs ?
Ouais.
Et tu joues...
Anthony Dupuis, c'est ça ?
Anthony Dupuis, ouais, qui était réputé pour son regard de tueur.
Ah ouais, il m'a fait pleurer plein de fois, lui. Ah, plein de fois, dans le sens, il est super gentil. Mais ouais. C'est de nouveau... Moi, j'ai 22 ans, je crois, ouais, 23 ans. Comme tu dis, j'avais 1m93, je faisais 72 kilos. Donc, j'ai passé en dessous d'une porte, limite. Et lui, il était costaud comme pas deux, il avait déjà 32 ans. Donc, barbu, moi, j'ai toujours pas de barbe. J'ai 38 ans, j'ai un peu de barbe, mais pas non plus pour dire. Donc, c'est des gens comme ça qui m'impressionnaient, tu vois. Ouais. Et bah, pendant ce match-là, je dois dire qu'on voyait qu'il s'était rebattu, c'était pas son truc. Et là, les amortis, ben là, je sais. Après 4 jeux, j'avais compris que lui, il ne va pas courir pendant 5-7 après ces balles-là. Parce qu'il était un peu lourd, tu vois, il est tellement costaud, il avait une frappe incroyable, il jouait en force.
Ouais.
Et bon, moi, j'ai pas accepté de faire un match en force.
Ok, bien vu. Derrière, donc, tu joues le futur vainqueur, mais plus pour dopage, Puerta. Et il y a un truc qui m'a frappé, c'est tu dis que. L'année d'avant, je crois que tu l'avais battu.
À Palerme, 6-1, oui.
Et là, il est injouable. Physiquement, tu dis que c'est monstrueux, qu'il ne rate rien. Ouais. Mais quelque part, si tu te dopes, bah, tu peux toujours rater tes coups. Il était aussi en confiance.
J'ai avancé ce jour-là, quand j'ai perdu contre lui, qu'il était dopé, moi.
Tu l'as avancé, ouais. Ouais, t'as eu quelque part, tu as eu un peu de chance que ça soit vérifié, parce que sinon, ça peut faire un scandale.
Ben ça fait scandale avec l'ITF, j'ai eu des trucs avec eux.
Ah ouais ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Bah non, après mon match, après ma défaite à Roland, j'ai tellement défait de le voir comme ça. Et après le match, moi j'ai un contrôle antidopage. Bien sûr, j'arrive pas à pisser direct. Donc je vais à la conférence de presse, je suis encore nerveux. Le mec vient avec moi. Là, j'ai dit, c'est marrant que moi j'en ai un à côté de moi. Alors qu'en fait, c'est l'autre qui doit l'avoir, parce que je suis certain, c'est pas possible qu'il a fait lui. Et donc j'ai dit ça sur un coup de colère.
Ouais.
Et le lendemain, quand je suis arrivé à Roland pour faire le double, l'ITF m'a fait comprendre qu'il ne fallait jamais parler de dopage dans la presse, il ne fallait jamais rien dire.
Ah ouais, d'accord.
Et donc, moi, je leur ai dit, c'est possible, mais là, ce n'est pas possible. Et donc, X semaines après, voilà. Moi, ce match-là, ce n'était pas normal. Parce que moi, après des échanges, je me rappelle quel terrain c'est en plus. C'est qu'après les échanges, je devais m'asseoir sur la chaise des juges de ligne parfois, qui se retrouvait au-dessus du bac du Perrier. J'ai même penché. On a fait 3-7, hein, on n'a pas fait 5-7. Hein.
Ouais, 3-7.
Les échanges duraient. Et en fait, lui, il m'attendait comme ça. Au milieu de terrain. Il me regardait en disant, mais gars, qu'est-ce que tu fais? Tu attends quoi, là? Et moi, pendant tout le match, j'étais frustré de ça, déjà. Je sais que pendant tout le match, je me suis dit, mais toi, gars, c'est pas possible. Toi, c'est pas possible ce que tu fais. Ça, c'est surhumain ce que tu fais, tu respires même pas. Et moi, je suis sorti du terrain, je ne savais plus parler. Je m'en 3-7.
Il a pris combien de suspensions? Je me souviens pas.
Je sais pas, il a pris deux ou trois fois, lui. Hein, donc.
Ouais. Il avait dû rendre ses gains de Roland?
Ouais. Mais entre-temps, il avait pris tout l'argent des garanties des trois qui suivaient. Voilà, ça.
Nickel.
Ouais, donc lui, il ne fallait pas s'inquiéter pour lui. C'est ça que moi, j'ai dit à ce moment-là aussi. Quand l'ITF m'a dit, ouais, il faut rien parler. J'ai dit, bah, ok, pas de problème. Mais l'argent déjà qui, lui, a reversé à l'ITF, il va à qui cet argent-là? Les 600 000 à ce moment-là, c'était. Ça va à qui, ça, ces 600 000?
Ouais.
Voilà. Dites-moi où c'est. Dites-moi juste où c'est, les 600 000. Moi, je ne demande rien d'autre. Je ne demande pas à me les donner à moi, les 600 000. Je n'ai pas dit que j'allais faire moi, au final, hein, ou gagner ou quoi.
Non, mais au moins les redistribuer, peut-être. Ouais.
Voilà, mais bon, ça, c'est un autre débat, ça.
Exactement. L'année d'après, tu atteins ton meilleur classement, 30e, tu passes numéro 1 belge. Comment tu vis cette saison-là? Comment tu le ressens, quoi?
Comment je le ressens? Forcément, tu te trouves incroyable, parce que c'était 30 au monde. Mais cette année-là, il y a plein de regrets. C'est malheureux de dire, mais il y a plein de regrets.
Ouais.
J'ai perdu 7-6 au troisième la première semaine de l'année à Chennai contre Ljubicic.
Ouais.
Avec balle de match.
Encore une fois.
Encore lui. Ouais, mais encore lui. Il en rigole encore quand je le croise parfois. J'ai perdu 7-6 au troisième contre Söderling avec balle de match à Memphis en demi.
Ouais.
J'ai eu 7 balles de match à Roland-Garros contre Dlouhi.
Lucas Dlouhi.
Oui, j'ai eu 7 balles de match.
7 balles de match.
J'ai eu Joachim Johansson 6-7-7-6-7-6 à Stockholm avec balles de match. Si je gagne ces 4 balles de match-là, je suis 18-19 à la fin de l'année.
Ah, ça change pas mal la donne. Ouais.
Donc, oui, 30e mondial, c'est mon meilleur classement de tous les temps. Et en fait, quand tu te dis, putain, c'est bizarre, ça, mais j'aurais pu être en fait 18-19 ou 20.
Top 20, ouais.
Et donc, quand tu es là-dedans, tu dis, bon, c'est pas grave, j'ai encore plein d'occasions, tout ça. Parce que bon, j'avais 25, 26 ans, je crois. C'était en quelle année, ça? En 2006, donc j'avais 24 ans. Il me restait 11 ans à jouer, donc on verra bien. En fait, il y avait 11 ans à jouer. Et donc, c'est ça, moi, le truc qu'à ce moment-là. Parce qu'à ce moment-là, Malice, en fait, son meilleur classement était 18.
Ok. Donc, tu voulais l'égaler, quoi.
En Belgique, tu vois.
Ouais.
Et Olivier Rocky, c'est 24. Et moi, c'était 30. Mais en fait, j'aurais pu être. Je dis pas dû, mais j'aurais pu.
T'aurais pu battre le record, ouais. En effet.
Voilà. À ce moment-là, bon, il y a David Goffin qui est passé derrière, qui aurait écrasé tout le truc, mais il aurait écrasé ma petite carrière tranquillement, mais voilà.
Est-ce que tu bossais avec un préparateur mental à cette époque-là?
J'ai essayé, mais je dois avouer que ça n'a pas fonctionné.
D'accord. Physiquement,
ça n'a pas fonctionné parce que je n'étais pas prêt à bosser pour ça.
Tu penses que ça serait venu avec l'âge, peut-être?
Ouais. Ouais, parce qu'à la fin de ma carrière, on va dire quand j'avais pour les 27, 28 ans, je contrôlais beaucoup mieux mes émotions. Qu'au début de ma carrière, ça jouait plein de fois contre moi. Mais je commençais à contrôler beaucoup plus mes émotions. Donc, je pense que si je... C'est pour ça que je dis toujours, j'ai déjà dit, entre mes 30 et 35 ans, je ne dis pas que j'aurais mieux joué au tennis, mais, ou j'aurais peut-être pas fait une meilleure carrière ou fait des meilleurs résultats, mais j'aurais eu beaucoup plus la paix avec moi-même.
Physiquement, tu bossais comme un monstre?
Au début, oui. Avec Christophe Rocuse, on a fait pendant 5 ans, du matin au soir, on a fait plein de trucs. Et puis, Christophe et moi, on a arrêté en même temps avec la personne. Parce que la raison, c'est qu'en fait, on n'arrivait plus à le voir, lui. Tellement il nous cassait, en fait.
Ah oui.
Oui, tellement qu'on avait fait trop. Donc, c'est une personne, par exemple, on devait faire 10 séries le lundi. Et il disait, oui, les gars, mardi, c'est plus cool, donc ne tracassez pas. Et on arrivait le mardi, il disait, c'était 9 séries. Ah non, c'est pas plus cool, ça, gars. Entre 9 et 10, je sens plus la différence, moi. Cool, c'est 2. À fond, c'est 10. dis-moi qu'il y en a 4 ou 5, alors, ça ne me dérange pas. Mais tu me dis 9, mais non, ne me dis rien lundi, parce que là, tu me tues. Là. Donc, à un moment donné, j'ai fait le choix d'aller travailler avec un autre préparateur physique, Eric Lambert, avec qui mon staff aujourd'hui, il est fait encore avec mes jeunes.
Ouais.
Et ça, c'est quelqu'un, par exemple, c'était beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus... la relation était beaucoup plus humaine. C'est pas que la relation n'était pas humaine de l'autre côté, mais elle est différente. C'était plus à l'écoute.
Ouais.
Et par rapport à ce que j'avais besoin. Et monsieur, ouais, Eric, en fait, c'est quelqu'un aussi qui m'a aidé beaucoup mentalement. Il me faisait du bien. C'était un peu comme Laurent Raymond.
Ouais. Il t'a apaisé.
Et je l'écoutais, j'acceptais ce qu'il me disait. Et quand il me disait, Chris, t'es à côté de la plaque, putain, maintenant tu la fermes, tu vas le faire. J'ai dit, ok, t'as raison. Avec d'autres, j'aurais fait, hé, c'est pas à toi de me dire ça. Et donc, c'était humainement parlant, le respect que j'ai eu pour cette personne-là et que la personne a eu pour moi. C'est ça qui a fait beaucoup pour moi. Et encore aujourd'hui, je l'ai eu encore hier au téléphone, parce qu'il est aussi chez lui à la maison, mais c'est quelqu'un qui restera à vie, entre guillemets, dans mon cœur, parce que voilà, c'est quelqu'un que j'aime, parce qu'il m'a aidé énormément.
Ouais. En 2007, tu arrives à Roland, tu es quand même en bonne confiance, tu as accumulé la confiance à Monte-Carlo, avec les victoires contre Safin, Paul-Henri, même si tu joues Rafa encore, comme d'hab, derrière.
Ouais.
Tu arrives à Roland avec le plein de confiance et tu... t'éjectes Richard, tu te sentais comment à ce moment-là sur le terrain?
Très très mal.
Ah ouais?
Parce qu'en fait, dégagé. J'ai expliqué que la semaine avant, il y avait le World Cup Team à Düsseldorf.
Ouais.
Où j'ai perdu tous mes matchs, mais en 45 minutes, en une heure. Ça n'allait pas du tout. Et je suis parti de Düsseldorf avec ma voiture à Roland. Et là, j'ai eu peut-être la chance de l'année, parce que mon premier tour à Roland, j'ai joué contre... un japonais. Oh. Et lui, sur terre battue, ça n'allait pas du tout, lui.
Ok.
En fait, j'ai eu un cadeau. Là, j'ai eu 45 points gratuits, entre guillemets, parce que...
Passé quoi entre Monte-Carlo et Düsseldorf, alors que tu sors des gros matchs là-bas?
Ouais, mais à Düsseldorf, il y a World Team Cup, et c'était différent. C'était, les mecs jouaient vraiment bien. Düsseldorf, la terre battue était vraiment rapide. Et aussi... indirectement dans ma tête, c'est malheureux de dire, mais je ne jouais jamais la semaine avant un grand chelem normalement.
Ouais.
J'ai essayé de ne pas jouer, j'allais tôt sur place. Et là, ouais. Je me retrouve à Düsseldorf, en fait, que j'ai envie d'être à Roland déjà. Parce que j'ai envie de jouer avec les balles, je vais dans les conditions là et tout ça. Donc, je pense aussi qu'indirectement, ça a joué parce que c'était dans ma tête que je voulais être à Roland, tu vois. Et,
ouais.
Bon, une fois à Roland, je me sentais bien. Bon, bien sûr, quand tu joues contre Richard sur terre, sur le central, je dois dire, à ce moment-là, on ne peut pas dire que lui, il a sorti un grand match quand même.
Ouais.
La pression que la France lui a mis depuis 20 ans, je crois, c'est insupportable pour lui, je crois, à cet âge-là.
Ouais.
Ça, c'est impossible pour lui. Et là aussi, tout ce match-là, je pense que j'ai joué 85% du temps dans son coup droit. Je ne pense pas que je lui ai donné 3 revers d'affilée. Une fois. Je ne lui donnais pas, je voulais le mettre dans des mauvaises conditions, je voulais qu'il ne sortait pas ses revers long line incroyables, je ne voulais pas qu'il sorte ses croisés incroyables en revers. S'il le faisait, avec son coup droit, ce n'était pas de problème, mais pas avec son revers.
Ok. Tactiquement, tu as été bon.
Ouais.
Et contre Cagnas, tu as eu le même sentiment que contre Puerta ou différent?
Un peu différent, mais pour moi, ils sont un peu dans le même truc, moi.
D'accord.
Mais, bon. Par exemple, j'ai fait une erreur tactique parce que les deux premiers sets, j'ai joué un peu trop dans sa cadence.
Ouais.
Et après, j'ai commencé à beaucoup plus varier. Et que le troisième set, je l'ai gagné. Et le quatrième, j'ai eu des occasions au début de quatrième. Mais je crois que c'est 6-2, 6-2, 3-6, 6-2, un truc comme ça.
J'ai pas le score.
Ah, ok. Mais je crois que c'est un truc dans ce style-là.
Ok. Est-ce que c'est cette année-là où tu qualifies quasiment à toi tout seul la Belgique pour les quarts? En Coupe Davis.
C'est contre l'Australie, ça?
Ouais, c'est ça, c'est en 2007, ouais.
Ouais. Tout seul, non, j'ai gagné 2 points, moi.
Oui, tu gagnes 2 points, mais bon, tu gagnes le point décisif en 5-7, tu bats 8 en 5-7. c'est quand même assez monstrueux.
Surtout qu'au début de l'année, c'était compliqué.
Parce que, est-ce que c'est ton meilleur souvenir sportif?
C'est certain que... Oula, j'ai mon fils qui arrive. Hey ah oui, la fin. On va en donner à manger, mon cœur. Oui, on va donner à manger. Oui, t'inquiète. On va en donner à manger. Oui, regarde. Regarde qui est là. Regarde, c'est un monsieur. C'est un monsieur. Tu vois? Tu dis là-dedans? Pas encore. Il va manger? Il va manger? Je pense que c'est le meilleur souvenir, en Belgique, ouais. À ce moment-là, c'était le plus grand exploit à ce moment-là.
Ouais.
Mais moi, par exemple, battre Safin à Monte-Carlo, ouais. C'est aussi important que battre 8 chez nous à la maison.
Ah, c'était en Belgique, pardon. Ok.
Ouais, c'était en Belgique, ouais, c'était à Liège. Et okay. C'est vrai qu'à ce moment-là, par contre, 8, c'était la première fois que j'ai gagné un match en 5-7. Et lui, ouais. C'était la première fois qu'il perdait un match en 5-7 en Coupe Davis, apparemment. Ben, ça, je ne le savais pas.
Allez, là.
Donc, ça, c'était bon. Et bon, je dois dire qu'à 2-2, j'ai joué contre Guccione. Et lui, il est quand même pas sur terre battue. Il était quand même pas incroyable. Ouais. Donc, ce match-là, j'aurais pas pu le perdre. J'aurais pas... Si j'avais perdu ce match-là, après avoir battu 8, ça aurait été la honte.
Chris Guccione. Ouais. Quel était le joueur avec lequel tu te marrais le plus sur le circuit?
Je me marrais avec le plus. Je ne sais pas, je m'entendais bien plus ou moins avec un peu tout le monde. Je ne peux pas dire que j'en avais un. Je pense qu'aujourd'hui, dans le circuit, vu qu'il y a maintenant des téléphones et tout ça, ils s'entendent beaucoup plus. Moi, à l'époque, je dois dire, je n'entendais pas beaucoup de gens. Je les voyais en tournant, mais pas non plus pour dire. Le Hollandais, avec que je dis, Sluiter, lui, il a arrêté sa carrière assez tôt aussi. Lui, avec lui, je m'entendais bien. Quand je le voyais, on s'entendait bien, oui.
Tu n'organisais pas des tournois de PlayStation le soir dans ta chambre d'hôtel?
Non, pas du tout.
Tu jouais à quel jeu?
À ce moment-là, il y avait juste un peu le foot, là, mais bon, encore, c'est pour passer le temps. Ça.
Ouais. Est-ce que tu étais du genre à voyager un peu, aller voir les richesses dans les villes, sur les tournois? Pas du tout.
Zéro, j'ai rien vu. Ma femme l'a dit souvent, t'as été partout au monde, mais en fait, t'as rien vu. Exactement, j'ai vu l'hôtel, le restaurant et un club de tennis.
Ça t'intéressait pas?
Non, rien du tout.
T'étais concentré, quoi.
Je dis, ouais, concentré, ouais, ça s'appelle concentré, je sais pas, mais ouais, j'organisais mes journées comme quoi, voilà. J'étais souvent dans la chambre d'hôtel, je regardais les matchs de tennis, j'analysais un peu.
Est-ce que tu as des anecdotes vécues avec les numéros 1 mondiaux de l'époque? C'était pendant ta génération, c'était 8, Roddick,
Federer.
Est-ce que tu as vécu des trucs un peu en dehors du terrain avec eux?
Non, parce que j'avais pas beaucoup de contact avec eux, je dois dire. Je peux pas dire que je les voyais en dehors ou quoi, ou non.
Tu les considérais comment?
Comme tout le monde.
Ouais, pas forcément comme des monstres.
Non, tant que je les jouais pas, non. Un mec comme Nadal, c'était un monstre sur terre battue. C'était un vrai monstre. Mais Federer, par exemple, on arrivait à jouer avec Federer parce que à ce moment-là, Federer, il ratait encore plein de coups parce que j'ai l'impression qu'il n'était pas toujours concentré à ce moment-là.
Ouais.
Donc, contre Federer, quand j'ai joué contre lui en Coupe Davis, en Suisse, je sais pas, en 2009 ou un truc comme ça, j'avais break au premier, j'avais break au deuxième. J'ai perdu en 3-7, mais j'avais l'impression qu'il y avait moyen de faire mieux. Nadal, j'ai D'accord. jamais eu l'impression de pouvoir faire mieux.
Ouais. En 2008, tu as un peu plongé les 6 premiers mois et tu n'as pas hésité à repartir en challenger. Tu as d'ailleurs cartonné. Ouais. Mentalement, est-ce que c'était dur de rétrograder de catégorie de tournoi ou comment ça s'est passé?
C'est pas le truc que tu as envie de faire le plus, hein, mais à un moment donné, il faut qu'on. Quand tu perds confiance, quand tu vois que tes tournois n'avancent plus ou tu ne gagnes pas, tu repars un peu en arrière. Mais bon, tu reprends vite confiance quand même parce que si tu gagnes la première semaine de tes challengers, tu t'as choisi de faire 3-4 tournois à filer challenger, tu sais que tu gagnes le premier, tu sais que tu es parti de nouveau. Donc ça, à ce moment-là, ça devient sympa parce que tu te sens bien. Et en plus, vu que tu as été déjà 30e mondial ou quelque chose comme ça, quand tu retournes dans les challengers, les joueurs te regardes différemment parce que tu rencontres des joueurs, on va dire, en moyenne entre 120 et 250. Ces joueurs-là, ils savent ce que tu as fait. Donc, je ne dis pas qu'ils ont peur de toi à l'avance, mais c'est un peu comme, hey, c'est pas du tout la même chose, c'est une caricature, mais tu me poses la question si je regarde Federer différemment. Bah, oui et non, mais je pense que tu poses la question à des mecs de Challenger qui regardent moi en Challenger, ils vont dire, bah ouais. Donc, je pense que c'est un peu la même chose, alors que, bon, je n'ai pas du tout la carrière de Federer ou Nadal, hein, loin de là.
Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de la fin, du coup, comment ça s'est passé, à cause de quoi, comment, et quelle a été la suite, quoi.
J'avais déjà beaucoup de problèmes avec mes épaules, mon épaule et mon bas du dos.
Et ouais.
À un moment donné, bah, le problème, c'était que le matin, quand je me levais, c'était vraiment dur. L'épaule droite, par exemple, j'avais besoin de 5 minutes à 10 minutes pour pouvoir le bouger. Une fois qu'il était, on va dire, en route, je pouvais jouer. Et à un moment donné, je vivais sous des Voltaren du matin au soir pour jouer au tennis.
En parlant d'opage, tu disais qu'on t'avait proposé des choses pour ton épaule. C'était quel type de proposition ?
Ouais, ça, je ne vais pas le dire maintenant, parce que ça, c'est bien derrière moi. Je n'ai plus envie de faire polémique sur quoi. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, bah, y avait moyen de trouver une solution. Je crois. Bon, je pouvais me faire opérer aussi. Hein.
Ouais.
Je pouvais me faire opérer, mais le problème, c'est que j'avais 30% de chance d'être paralysé à terme.
Ah oui.
Donc, chaud. Oui, donc 30%, ça me paraît quand même beaucoup.
Ouais, ouais.
Donc ça, ce risque-là, je l'ai pas pris. Je n'ai pas voulu le prendre. Et bon, j'ai discuté avec tout mon staff à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Bon, moi, je sentais bien que ça ne se mettait pas vraiment bien en place. Et bon, j'ai arrêté pendant 8 mois, la première fois, je crois, 6 mois. Et là, j'ai commencé à rebosser comme il fallait au début. Mais je sentais à l'intérieur de moi-même que l'épaule n'allait plus, les coudes commençaient à faire mal aussi. Donc, j'ai encore essayé pendant un an et demi.
Ouais.
En sachant, en fait, si j'avais été honnête avec moi, j'aurais pu arrêter directement en 2009 ou 2010. Je n'aurais pas dû faire encore l'année d'après, essayer, parce que voilà. Mais je pense que le staff et moi, on a tout essayé pour remettre le corps en route, de faire tout faire. Et à un moment donné, ça allait bien, mais il y avait trop de chutes. Il y avait trop de moments que je pouvais jouer 10 jours. Et puis, il ne vaut pas pendant 5 jours. Je pouvais jouer 3 semaines et puis 2 semaines, pas. Donc, c'était pas bien, ça. Et bon, je devenais malheureux aussi. Hein. J'étais chez moi à la maison. Je n'arrivais pas à faire ce qu'il fallait. Donc ça, c'est quand même compliqué, ça.
C'était dur d'annoncer la retraite ?
L'annoncement même, c'était pas dur. Parce que c'était un soulagement pour moi. Parce que ça faisait 2 ans que je me battais avec moi-même et voilà. Bon, après, c'est sûr que les semaines après, là, ou les mois après, bah, c'est là que j'ai ouvert un restaurant. C'est quand même pas le choix logique après ce que j'ai fait.
Est-ce que pendant ta carrière, tu as pris la grosse tête à un moment donné ?
Ma femme me dit oui. Je fais oui. Ma femme me dit oui. Apparemment, oui. La grosse tête, comme je disais au début, j'avais du mal à parler avec les journalistes.
Ouais.
Bah, j'ai eu du mal aussi à parler avec des gens. Parce que j'avais toujours l'impression qu'ils voulaient quelque chose de moi.
Et aujourd'hui, t'es cool, hein ?
Je suis cool, hein, Scott ?
Ça dépend des jours.
Ça dépend des jours, apparemment. C'est pas toujours ça. Non, mais comment dire ? Je pense pas que j'ai eu la grosse tête, mais c'est vrai que je me suis méfié pendant des années des gens. Pourquoi ils venaient me parler ? Pourquoi ? Ils veulent quelque chose de moi ? Pourquoi ? C'est comme le journaliste, comme je disais au début, hein. Un journaliste qui vient me parler, qu'est-ce que tu veux de moi ? Remplis ta feuille. Qu'est-ce que tu veux de moi ? Dis que j'ai gagné ou j'ai perdu. J'ai bien joué, j'ai mal joué. Pourquoi tu veux tout savoir de moi ? Pourquoi tu veux vouloir savoir ? Tu vois, c'est des trucs. J'ai du mal avec ça. Donc, je peux comprendre que les gens disent que j'ai la grosse tête à un moment donné, mais je pense que c'était plutôt pour me protéger.
Quel a été ton tout premier sponsor vêtements ?
Tout premier sponsor vêtements ? Le Coq Sportif.
Et tu te souviens de la première dotation de fringues, le premier carton que tu as ouvert ?
Ouais, je pense bien, ouais.
Ouais, pas sûr.
Bah non, je pense. Je sais lesquels vêtements c'est, parce que c'était pour Adelaide. Je sais, c'est les vêtements blancs.
Ouais. Et alors, c'était. Enfin, c'est un peu le rêve au départ quand t'as un équipementier qui t'offre des fringues et tout, non?
C'est vrai, c'est vrai qu'à un moment donné, tu. Par exemple, après, j'ai eu l'auto pendant 5 ans. La pizza, il faut. J'ai eu l'auto pendant 5 ans et ils envoyaient 5 fois par an des vêtements. Et ils donnaient pour la famille. Je dirais, ils donnaient beaucoup trop. Je disais, mais j'ai pas besoin. Ils me donnaient pour Wimbledon, ils me donnaient 15 polos. C'est gentil, mais avec un peu de chance, j'ai besoin de 4. Hein. Ouais, c'est comme ça. Je n'ai pas besoin de 15. Donc, il y en avait 10 qui restaient minimum dans le plastique, qui restaient à la maison.
Ah ouais.
Des chaussettes. Ils donnaient des chaussettes, mais ils donnaient à chaque fois 30, 40, 50 paires de chaussettes. Mais tu reçois ça 4, 5 fois par an. Mais tu fais quoi avec ça? C'est pas que je les mets une fois, je les jette. Mais je pense qu'eux, ils s'attendaient à ça, en fait. Mais je peux comprendre. Hein, Federer qui va à Wimbledon, je peux pas. Federer n'a jamais été ça, là, Roland Garros, il avait les chaussures. Hein. Moi, j'ai monté avec la même paire de chaussures que j'ai gagnée la veille. Hein. Lui, pas. Lui, à chaque fois, soit il y a une machine à laver incroyable, mec, mais. Ça, je peux pas y croire. Ça.
En étant 30, 40, 50, est-ce que t'avais des minimums garanties, toi aussi, dont tu parlais tout à l'heure
Non, j'ai eu une fois eu une garantie. Et encore, je n'ai pas compris pourquoi ils l'ont fait. Ouais. C'est Sertogenbosch aux Pays-Bas, sur gazon. J'allais chaque année là-bas avec ma voiture, ça faisait 2 heures de route. Donc, ouais. J'allais chaque année. Donc, ils me donnaient la garantie qu'ils ne me la donnaient pas, j'allais quand même.
D'accord.
Et ils m'ont donné. Mais je n'ai pas compris pourquoi.
Au geste.
Oui, c'est un geste. À mon avis, ils se sont dit celui-là, il vient déjà des années. Il laisse un temps, on va donner quelque chose. Je ne sais pas.
Ça paye l'essence.
Donc, j'ai eu une fois. J'ai eu une fois.
D'accord. Pour terminer l'interview, j'ai quelques questions de fin qui sont communes à toutes les interviews.
Okay.
Quelle est aujourd'hui ta définition de la richesse?
De la richesse?
Ouais.
Aujourd'hui, la richesse, c'est d'être avec ma famille tout le temps. C'est que je suis toujours à la maison, ma femme, mes enfants. C'est ça que ça c'est aujourd'hui, c'est ça ma richesse aujourd'hui. Tu m'aurais posé la question il y a 10 ans, j'aurais répondu autre chose, mais aujourd'hui c'est ça. Je pense qu'avec le temps, voilà, avec le temps on change.
Concrètement, comment tu fais pour être une meilleure personne?
Oula, comment je fais pour être une meilleure personne? Qu'est-ce que je fais? Ce que tu ferais? Ouh, elle se casse. Qu'est-ce que tu vas dire?
Si tu me donnes ta carte de banque.
Oui. Si je donne ma carte de banque, je suis une meilleure personne. Voilà. non, qu'est-ce que je fais pour une meilleure personne? Non. Je pense que je suis resté un peu moi-même. Je sais d'être moi-même. Voilà.
Ok. L'expérience la plus dingue de ta vie?
L'accouchement de mon deuxième fils.
Et parce que le premier, c'était moins dingue?
Le premier, c'est une césarienne. Le deuxième, c'était naturel. Elle l'a senti, on va dire.
Est-ce que tu lis un peu? Et si oui, est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement plu?
Non. Ah, maintenant, tu veux dire, ou à l'époque?
Ouais.
À l'époque, j'ai lu beaucoup de biographies des sportifs.
T'en gardes une en tête?
Non, pas spécialement.
Et aujourd'hui?
Aujourd'hui, je ne lis pas.
Quand tu lis, c'est des biographies.
Oui, quand je lis, c'est des biographies, mais encore maintenant, ça fait 10 ans que j'ai plus. Ouais, c'est vrai que quand on part en vacances, je fais quelque chose, mais sinon.
Un film référence?
Oh, je regarde pas les films, c'est horrible ce que je vais te dire. Pour te dire, maintenant, ça fait 2 mois qu'on est à la maison et on a regardé Prison Break et là, on est dans le truc Suits, la deuxième saison, donc pour te dire que j'ai pris un peu de retard sur beaucoup de gens, on va dire.
Tu regardes même pas les films de Benoît Poulvord?
Oui, on en a vu, mais bon. J'ai pas. Tout ce qui est musique, film et tout ça, et livres, je suis pas trop dans le truc.
Ok. Qu'est-ce que le Christophe d'aujourd'hui dirait au Christophe de 20 ans pour le driver un peu, pour le coacher?
Qu'il doit se calmer. Qu'il se calme et qu'il fait juste les trucs et qu'il soit peut-être un peu moins têtu. Et qu'il accepte peut-être mieux, plus les défaites et qu'il doit regarder beaucoup plus vers l'avant. Dans le sens que quand j'avais 20 ans, je ne me suis jamais dit que j'allais... j'ai toujours dit que j'allais faire 15 ans de carrière. J'allais jouer au tennis jusqu'à mes 35, puis voilà. Et Et peut-être que j'aurais dû profiter plus le moment. À un moment donné, c'est devenu normal, tout ça.
Est-ce que tu as fait la fête un peu sur le circuit? Si oui, ta plus grosse fiesta.
La fête, bah, je l'ai fait à Munich, après la finale avec Olivier Rocuse.
Fête de la bière?
Non, je ne sais pas. Bon, en Allemagne, il y a la bière, je crois, mais c'était surtout... On ne pouvait pas rentrer parce que à ce moment-là, le Rudi Berger, directeur de tournoi, nous a dit que après la finale, il y avait les sponsors, le dîner, tout ça, qu'on ne pouvait pas rentrer chez nous. Et donc, ouais. On devait y aller. Donc là, on a fait la fête avec Julien Ferlin qui est décédé. C'était l'entraîneur d'Olivier Rocuse à ce moment-là. Ouais. Mon entraîneur Philippe Dehaze et moi, quoi. Donc, avec Stéphane Vivier qui était coach, qui était kiné de l'ATP à ce moment-là, qui était devenu de fédéré. Donc, avec lui, ouais, on a fait une bonne soirée. Pas non plus pour dire. Je ne sortais pas à l'étranger. J'avais l'impression que j'étais plus professionnel à l'étranger qu'en Belgique. En Belgique, j'avais plus du mal.
Est-ce qu'il y a une personne que tu nous conseilles d'avoir sur ce podcast pour parler tennis et que tu pourrais nous aider à avoir?
Vous avez déjà eu qui?
Darcis.
Quoi ça?
De tes collègues belges, est-ce que tu pourrais nous aider à avoir
T'as pas eu le numéro d'Olivier? Olivier Rocuse, tu l'as pas eu?
Christophe va sûrement me le donner, ouais. Ouais, Christophe va mettre.
Olivier va te le faire. Après, en Belgique, il n'y en a pas énorme après. Hein.
Justine, tu es en contact?
Zéro contact. Avec les femmes, franchement, j'ai jamais eu de contact déjà.
Ok.
Donc, moi, les numéros que moi j'ai, c'est Olivier Rocuse, Christophe Rocuse.
Steve.
Steve, forcément. Après, il n'y a pas eu non plus plein de joueurs qui ont fait carrière.
Hein. Bebel Mans, tu es en contact, non?
Ouais, lui, j'ai. Je suis même pas sûr que j'ai son numéro, tiens. Ça, il faut que je regarde. Si je l'ai, je vais lui demander.
Ok, cool. Bon, super. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Christophe, pour terminer?
Que toute ma famille reste en bonne santé, qu'on peut commencer à travailler bientôt, tous.
Aujourd'hui, tu veux un nouveau projet dans le coaching ou qu'est-ce qui t'intéresse?
Aujourd'hui, j'ai de nouveau lancé mon académie là, depuis que j'ai arrêté de travailler avec l'Hollandais. Et donc, ouais. Ça, c'est un truc à voir si j'arrive à le développer en Belgique parce que c'est quand même pas évident. C'est quand même en Belgique, déjà deux langues différentes, deux fédés différentes. Donc, tu es déjà vite dans la concurrence. Donc, ça, c'est à voir s'il y a un truc à développer. Et si après, si jamais il y a un professionnel qui m'appelle ou quoi, dans quoi je vois l'aspect sportif, je vois intéressant, je veux bien essayer. Super.
À bientôt. Ciao.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Tu es vraiment une légende. Tu peux envoyer un message sympa sur Insta à Fly pour le remercier d'être passé au micro. Et viens me dire en commentaire ce que tu as appris ou ton passage préféré de l'épisode. Les commentaires permettent de mieux référencer notre travail et donc de plus le diffuser pour à terme avoir des invités prestigieux. Et donc, tu l'as compris, te régaler la chic. Si tu l'as pas encore fait, mets aussi un like si t'es sur YouTube et 5 étoiles si t'es sur Apple Podcast ou Spotify. Personnellement, je me suis marré quand Fly parle de Wayne Arthurs à Adélaïde, qui lui dit bonjour mais sans lui dire bonjour. Ou quand il avoue s'être pissé dessus lors du comeback de Ljubicic à Monte Carlo. J'ai aussi adoré la tactique mise en place contre Coria et le naturel de notre invité quand il raconte la soirée des champions à Wimbledon. C'est ça que j'aime avec vous autres les Belges. Vous ne vous prenez pas au sérieux et ça rend le moment encore plus cool. Pense à récupérer les 14 secrets de préparateurs mentaux dans le premier lien en description. Et si tu veux une autre source gratuite hyper cool, il y a les 5 conseils d'un cordeur pro pour choisir le modèle et la tension de cordage parfaitement adapté à ton jeu et mettre toutes les chances de ton côté en match, second lien dans la description. Merci à Gérald pour ton commentaire sur Apple Podcast qui nous dit « Podcast Art & Go, un grand bravo !» Merci Max pour cette idée géniale du podcast sur les grandes marques du tennis. C'est un régal que d'écouter ces réponses de passionnés de tennis. Merci pour ces purs moments de culture tennis, Gérald. Je tiens à préciser que ça doit être le 5 ou 6e commentaire de Gérald. Donc, si tu n'en as pas encore mis un, fais-en de même et lance-toi avec ta plus belle plume. Pensez aussi aux bouche-à-oreille des légendes. Entrez dans les rames de métro, les supermarchés, les trains, les boîtes de nuit. Et faites la pub du podcast à qui veut bien l'entendre. Il y aura peut-être un ou deux ratons de fond de cours autour de vous. Je relance l'appel concernant les championnats de France par équipe d'hiver. Si vous avez des contacts d'un club à suivre, on est chaud bouillant. Louis-Xavier et le vidéaste Timothée ont suivi la Villa Primorose de Bordeaux l'hiver dernier avec des épisodes hyper cool sur Hugo Grenier qui vient de passer la barre des 100, Benoît Paire, Steve Darcy et Romain Juan. Ça serait génial de suivre une nouvelle équipe cette année et de donner la visibilité que méritent ces rencontres hors normes, qui rassemble quand même le gratin du tennis français et même mondial, parfois dans le plus grand anonymat. Donc vous pouvez m'écrire à max@tennislegende.fr, par mail si vous avez des idées, des contacts, ou sur LinkedIn à Max Zamora, Z-A-M-O-R-A, ou sur Insta, Tennis Légende Podcast. Voilà, je crois qu'on a fait le tour, hein, les légendes. Une nouvelle fois, je suis ravi de voir à quel point le contenu sur Artengo vous a plu, et particulièrement sur le cordage. Je dois dire que c'est une très belle surprise qui donne des idées. Donc voilà, soyez prêts. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite. Prenez soin de vous. Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.